96.9 CJMD Lévis.
Intellectuellement libre.
Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus.
Oui, 50$ tout inclus.
Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca.
Redbeardsurvival.ca.
CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
Alors, il est 18h, on y est, c'est la Voix de Guerrier qui débute votre émission hebdomadaire sur le monde des sports de combat, des arts martiaux mixtes principalement, c'est comme ça tous les samedis entre 18 et 20h à votre radio préférée, la radio de Lévis. On est ensemble pour parler du sport de combat par excellence. Et je parle des arts martiaux mixtes, bien sûr, et c'était la grande fête, la grande célébration hier dans la vieille capitale, au Centre Vidéotron, avec l'événement TKO 43. Et pour en parler, on a le président de TKO, Stéphane Patry. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Ken.
Stéphane, tout un événement hier, je vois pas comment qu'on aurait pu avoir mieux. 13 combats, quasiment tous des combats très, très intéressants. Il n'y a pas eu vraiment de combats à sens unique. Il y a eu peut-être un ou deux combats moins intéressants, mais sinon, dans l'ensemble, tout un événement.
Ouais, ça a été un événement vraiment incroyable au niveau de la qualité des combats que la foule, de travailler au Centre Vidéotron, ça a été incroyable. Ils ont vraiment une équipe merveilleuse là-bas. Ça a vraiment été sur toute la ligne une expérience, vraiment une belle expérience.
Bon, d'habitude, le lendemain d'un événement, on passe quasiment 2 heures avec toi. L'exceptionnellement, tu as seulement 1 heure à nous donner, alors on va essayer d'aller un peu plus vite. Et à l'inverse de ce qu'on fait habituellement, on commence avec la carte préliminaire et on monte jusqu'à la carte principale. On va faire exactement le contraire aujourd'hui avec la remise des bulletins. C'est devenu un classique, c'est la tradition. Au lendemain d'un événement TKO, Stéphane, ça c'est vraiment apprécié. Stéphane était avec nous, puis avec toute la transparence du monde, donne la remise des bulletins aux combattants. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire dans les prochains instants. Je vous dis également qu'on va parler à Patrick Lonneau au cours de la deuxième heure. Patrick Lonneau, c'est, je dirais, tu me corrigeras si je fais erreur, mais c'est le bras droit de TKO?
C'est quelque chose comme ça.
et encore plus, je dirais, c'est aussi la voix de TKO, Patrick Lonneau, donc à qui on va parler en deuxième heure. Et je veux qu'on parle aussi, comme tu nous en dises un peu plus sur le Centre Vidéotron et tout ça. Donc, on va y revenir donc au cours de la première heure. Commençons donc avec le combat principal, Stéphane, Marc-André Barriot face à Brandon Kohnberger. C'était la première défense de Marc-André Barriot. Et Marc-André a fait ça comme dans un film hollywoodien, là.
En effet, Marc-André a réservé hier la soirée d'hier soir pour nous livrer sa meilleure performance en carrière. Je l'ai dit à la conférence de presse après le gala que quand il va arriver à l'UFC, parce que c'est sûr que ça va finir par arriver, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard, on ne sait pas à ce moment-ci, mais de tous les combattants québécois et canadiens, canadiens qui sont rendus à l'UFC, j'ai nommé Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, Marc Hominick, Sam Stout, Jonathan Goulet, David Loiseau, Yvan Menjivar, et j'en oublie plein, c'est certain. Il n'y en a pas un qui a eu un parcours aussi brillant. Puis je te parle pas au niveau juste au niveau du nombre de victoires, mais aussi au niveau de la qualité de ses adversaires que Marc-André Barriot, juste depuis son arrivée chez TKO, il a battu Yacine Bandoui, Jonathan Vallée. Ensuite de ça, il a battu Strania Gavrilovic, il a battu Todd Stout, il vient battre Brandon Kohnberger. J'en oublie un dans l'histoire, là, mais tu sais, c'est tout un parcours de Marc-André Barriot. Puis vraiment, s'il entre à l'UFC, ça va être par la grande porte.
D'ailleurs, bon, il faut aussi dire, en plus d'une brillante performance, d'un KO, écoutez, le pauvre Brandon Cornberger, c'était triste à voir, là. C'est spectaculaire.
Il a été parfait hier. Marc-André a vraiment, quand je disais qu'il a réservé la soirée de ce soir pour nous livrer devant ses fans sa plus grande performance. Je parle évidemment du combat. Brandon Cornberger est exceptionnel. Puis Marc-André lui a passé dessus comme un camion. Je pense que Kornberger, à part peut-être un ou deux échanges au début du deuxième round, n'a jamais été dans le coup.
Il faut se rappeler, là, le premier adversaire de Kornberger chez TKO, Francis Charbonneau, qui est un très bon combattant, a même pas été en mesure d'exister face à Kornberger. Et là, on a eu le scénario inverse, mais en faveur du Québécois Marc-André Barriot. Et j'ai l'impression que Marc-André a été parfait dans cette aventure-là, depuis l'annonce de l'événement TKO 43, depuis la confirmation qu'il allait affronter Brandon Kornberger. Faut rappeler, lorsque toi et Jonathan étiez ici dans le studio et qu'on annonçait le retour de Jonathan ici même au Québec, sa signature avec TKO, et pour moi, en tous les cas, dans ma tête, Jonathan allait être la tête d'affiche de l'événement, allait être le combat principal. Je pense que de ton côté, c'était pas nécessairement établi. Mais chose certaine, c'est que Marc-André, ce soir-là, dès ce moment-là, je pense qu'il a vu ça et que moi, dans ma tête, c'était sûr que Jonathan était la tête principale. Je pense que Jonathan, que Marc-André a manifesté, a tout de suite combattu pour dire non, c'est moi qu'il faut qu'il soit la tête la tête d'affiche de cet événement-là. Et il a fait les choses parfaitement du début à la fin.
Tu sais, il aurait pu faire comme bien d'autres, Marc-André, quand il a senti que peut-être que Meunier allait arriver puis prendre sa place qu'il avait selon lui mérité et acquis. Il aurait pu réagir comme bien d'autres puis réagir de la mauvaise manière. Mais non, il a réagi, il a décidé de l'expression de l'aider par l'exemple. Puis regarde, il a fait un job incroyable pour la promotion de cet événement-là. Comme j'ai dit hier à la conférence de presse, le combat Kornberger-Barriot, dès qu'on l'a annoncé, ce combat-là, en fait, dès que Kornberger a battu Charbonneau, ce combat-là est devenu automatiquement le combat que les gens voulaient voir chez TKO. C'est devenu automatiquement le combat le plus attendu depuis le retour de TKO. Donc, tu sais, c'est devenu un choix logique qui s'est fait par lui-même. Puis, tu sais, ça a été difficile pour moi parce que, tu sais, on est dans le premier événement de l'histoire du Centre Vidéotron, retour de TKO à Québec. Puis, t'as dans ton jeu de cartes, Jonathan Meunier qui arrive de l'UFC, qui est une grosse vedette à Québec, qui est un petit peu l'enfant chéri. Puis t'as Marc-André Barriot aussi dans ton jeu de cartes. Donc, tu sais,
Et les deux avaient des arguments en leur faveur. Marc-André avait tout un parcours. En fait, vous l'aviez nommé, et aussi du côté de la Voix des Guerriers, on avait nommé Marc-André. Et je pense que, de toutes les façons, c'est indéniable. Marc-André a été l'athlète par excellence sur la scène québécoise en arts martiaux mix en 2017. Ouais. Et comme tu le racontes pour Jonathan aussi, il y avait des arguments en sa faveur. Mais ce qui est arrivé, c'est que Marc-André a décidé de se battre pour ce poste-là. Et il l'a pleinement mérité. Et il s'est pas trahi dans cette aventure-là. Il y a la vidéo qui a été faite par je sais pas c'est quoi le nom du monsieur, mais le monsieur de promotion Way, je pense, de production Way. Je l'appelle toujours le monsieur des Rolling Stones. Je sais pas comment il s'appelle, mais
John Bon Jovi.
Il a fait une vidéo un peu des coulisses lors du moment où Marc-André et Brandon font leur face-à-face dans la cage au TKO 42. C'est une excellente vidéo, d'ailleurs. On t'entend dire à Marc-André, tu veux le combat principal, mais c'est pas mal là que ça se passe. Et Marc-André André aurait pu faire le fou, essayer de se trahir, pousser Brendan ou faire un show inutile. Non, ça a été respectueux, intense, ça a été à son image. Il a pas débordé, il est resté intègre avec lui, mais il l'a mérité. Il a fait des choses en grand, à la pesée aussi, lors des conférences de presse. C'était intense avec Brendan, mais respectueux en même temps. Et moi, j'ai vraiment là, Marc-André m'impressionne de combat en combat. Il s'améliore constamment. Il a un mental d'acier, ça, on le sait. Il frappe avec beaucoup de force. Alors, bravo. Et que dire de plus? Tout à l'heure, lorsqu'on s'est parlé, j'ai dit...
Souvent, Marc-André, il a des qualités athlétiques incroyables. C'est beaucoup amélioré. Ça, c'est indéniable. Mais je dis souvent que dans ce sport-là, ça se passe 50% dans la tête. Puis Marc-André, en plus d'être sérieux, d'être talentueux, c'est quelqu'un qui est très loyal. C'est quelqu'un qui est droit comme un chêne. Puis ça peut faire une grosse différence dans une carrière. Je le vois travailler avec son équipe, avec Danny, avec Patrick Marcil qui est son entraîneur depuis le départ, Danny Laferme qui est devenu son entraîneur-chef par la suite, Manu Molinier qui est son agent, puis ils ont vraiment une belle équipe, une belle famille, puis qui ont réussi à asseoir d'aller défendre le titre pour la première fois contre l'adversaire le plus difficile en carrière, puis d'en faire son combat qui a eu l'air le plus facile. Ça veut dire beaucoup de choses.
Et à l'issue du combat, je me suis dit, mais là, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, là, Marc-André? Et finalement, il demande sa femme en mariage après sa victoire. Et là, je me suis dit, ben, coudonc, est-ce qu'il va annoncer qu'il achète le centre Vidéotron aussi? Après ça, c'était... Qu'est-ce qui... Je veux dire, ça arrêtait plus, là.
Il a annoncé le retour des Nordiques.
Oui, c'est exactement... Regarde, on était presque rendu là. On était au summum du succès. Alors, excellente performance de Marc-André. Je te demande même pas sa note. Évidemment, tu vas me dire 10.
Oui, effectivement. En fait, c'est plus que 10, parce que si j'ai inclus tout ce qu'il a fait à l'extérieur de l'octogone pour ce combat-là, je lui donne un 20 sur 10.
Alors, quoi dire de plus à propos de Marc-André Barriault? Il est le champion des 185 livres de TKO. Il vient de défendre avec brio son titre. Est-ce qu'on a vu le dernier combat de Marc-André Barriault chez TKO?
En fait, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion depuis hier soir de parler aux gens de l'UFC. C'est sûr qu'on va avoir une discussion bientôt. Il fait pas de doute là-dessus. Puis tu sais, je l'ai dit à la conférence de presse hier aussi, j'ai toujours été très honnête avec nos athlètes qui sont sous contrat avec TKO. Je leur ai tous dit, si vous êtes champion et que vous défendez le titre au moins une fois et que l'UFC appelle, non seulement je vais vous libérer de votre contrat, je vais même vous aider à faciliter le tout. Puis, tu vois, c'est le cas en ce moment de Barriault et Arnett. Puis, hier soir, j'ai parlé à Jesse Arnett parce qu'on restait un peu à l'hôtel. Marc-André lui avait quelque chose chez un de ses commanditaires, mais Jesse était ici à l'hôtel, puis on a parlé. Puis, Jesse a dit, regarde-moi, même si l'UFC m'appelle pour me battre en juillet sur la carte de Calgary, je vais revenir faire mon dernier combat, puis ça va être une de mes exigences dans ma négociation avec eux. Cette négociation, il y a. Marc-André, c'est certain que je sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines heures, mais si l'UFC est intéressé d'appel, il va y aller. Mais tu sais, à travers tout ça, de voir la manière dont Jesse et Marc-André réagissent à tout ça, ça me rend très fier aussi.
Là, tu me surprends. Jesse Arnett, qui a aussi défendu son titre hier, lui, il vient de Calgary. L'UFC débarque à Calgary au mois de juillet. Quoique la carte me semble pratiquement pleine pour cet événement-là, mais il se passe toujours des choses. Il y a des blessures, il y a peut-être encore un ou deux combats à placer, je ne sais trop. Mais est-ce que tu me dis que Jesse Arnett, de son propre chef, veut disputer un dernier combat chez TKO avant d'aller rejoindre l'UFC?
Ben, tu sais, c'est un gars de la vieille école, Jesse Arnett. C'est quelqu'un de... comme je te dis, moi, c'est sûr que si Sean ou Dana m'appellent et me disent, bon, on veut l'avoir, je vais leur dire, regardez, il m'a dit ça, mais moi, je vais pas le retenir, je vais pas exiger qu'il retienne un TKO. Mais lui, bon, c'est dans sa nature, à Jeff Garnett, c'est un gars loyal, puis hier, c'est ce qu'il disait. Moi, c'est sûr que s'il m'a fait combat Calgary, je vais le faire, je vais y aller. Mais j'ai une clause là-dedans que je peux revenir faire mon dernier combat à mon contrat, je vous dois ça. Mais tu sais, comme je lui disais, non, regarde, Jesse, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as gagné la ceinture, tu l'as défendu au moins une fois.
Et c'est plus quelque chose que l'UFC fait. Je pense qu'ils l'ont fait avec Joe Dartson il y a quelques années. Ils l'ont fait avant, mais dans un passé récent, je pense pas.
Patrick Côté, j'en ai plus, Mark Hamilic, j'en ai plusieurs qui étaient sous contrat avec l'UFC.
Oui, oui, mais dans un passé récent, là, dans les cinq dernières années, à mon souvenir, le dernier, c'est peut-être Joe Dartson, mais je pense pas qu'il y ait eu d'autres cas. En tout cas, si c'est évidemment...
Mais bon, comme j'ai dit hier, moi, Jesse, je vais pas le retenir, ça va être sa décision à lui rendue là. Même chose pour Marc-André. Ils ont rempli leur mandat, puis je pense qu'ils méritent pleinement ce qui se passe pour eux en ce moment.
Alors, la note pour Brandon Kornberger?
Ben, tu sais, pour Brandon, c'est difficile de donner une note. Il a jamais été dans le coup hier soir. Mais il est tellement meilleur que ce que les gens ont vu hier. C'est vraiment Marc-André qui s'est transformé hier. Le temps d'un événement en super Marc-André, parce que Marc-André est très bon, mais hier, super Marc-André, lui, est presque imbattable.
On l'a déjà dit, en fait. Plus le moment va être important et plus Marc-André va briller. Et là, hier, Marc-André s'est mis une pression, une affaire de fou. Imaginez-vous, le gars, il se bat carte principale, combat principal d'un événement chez lui. Il y a eu une attention médiatique, je pense qu'on n'a jamais vu pour un événement d'arts martiaux mixtes au Québec d'une organisation locale. Moi, j'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça.
Ça inclut le UFC. Même quand le UFC est venu à Montréal pour le combat Georges St-Pierre Matsera, le premier UFC de l'histoire, il n'y a jamais eu la couverture qu'on a eue ici à Québec. Ça, c'est vraiment chapeau aux médias de Québec. On a fait la page couverture du Journal de Québec deux fois. On a eu...
Le Soleil vous a couvert également d'une manière... Parce que évidemment le Journal de Québec, on peut comprendre, c'est dans la même famille que le Centre Vidéotron. Alors, une page pleine, j'ai pas été surpris, mais de voir Le Soleil, deux pages pleines, coup sur coup,
On a eu TVA Sport, on a eu, oui, RDS, on a eu une couverture incroyable à la radio. Puis surtout, à chaque fois qu'on a fait signe aux médias, donc, conférence de presse initiale, entraînement public, conférence de presse pré-gala, pesée officielle, événement. C'est cinq événements médiatiques. Il n'y en a pas un que les médias... Il n'y en a pas un de ces cinq événements-là que tous les médias de Québec n'étaient pas là. À chaque fois, tout le monde, tous les médias majeurs de Québec ont été là. Ça, c'est cinq événements différents pour un événement. Donc, c'est vraiment merveilleux parce que même les grands événements d'autres sports, même au niveau culturel, c'est rare, premièrement, que pour un événement, on fait cinq événements médiatiques et encore plus que tout le monde est là à chaque fois. Ça, vraiment, ça a été... ça m'a marqué, puis je l'ai répété à plusieurs reprises comment je remerciais tout le monde pour leur travail, parce que, tu sais, c'est bien beau le travail que nous on fait, que les athlètes font, mais que les gens des médias puis les décideurs à ce niveau-là décident de s'impliquer puis de nous aider, c'est merveilleux.
Alors, toute cette pression, cette attention médiatique autour de Marc-André, il a fait, je pense, un ou deux shows de radio. Je pense qu'il a passé à l'émission de Dan Pou. Là, je parle d'un... C'est pas notre poste ici à la radio de Lévis, mais je me permets de le mentionner. Au FM 93, il en a, je pense, fait d'autres. Tu as parlé de tous les journaux. Il a eu tout ça, il avait son titre à défendre, il y a la forte possibilité que cette victoire-là lui permette donc de monter à l'UFC. Il y avait toute cette pression-là.
Qu'il allait demander Jeanne en mariage.
Et en plus, il y avait ça. Alors le gars, il pouvait pas perdre, il avait pas le droit de perdre, parce qu'évidemment, ça aurait été moins extraordinaire de demander Jeanne en mariage s'il avait perdu. Alors, il s'est mis toute cette pression-là.
Si c'était en plus mis à la tête d'annoncer qu'il ramenait les Nordiques à Québec, il aurait gagné une minute du premier round. Plus qu'il en aurait mis, plus qu'il aurait été bon.
Alors, oui, ben c'est comme ça, Marc-André Barriot. Alors, félicitations à lui, chapeau, et tout un combat pour clore la soirée.
Ouais.
Est-ce que tu as donné un chiffre pour Brendan pour conclure ça?
Ben, c'est difficile, tu sais. Je te donne une note de 4 sur 10. Les gens vont peut-être comprendre que, ah, il a superformé, ah, il a pas été. Non, Brendan est arrivé là, il était au sommet de sa forme, meilleur qu'en entraînement de sa vie. C'est juste que Marc-André a tellement été, il est arrivé, c'était un monstre dans la cage. C'était comme si on avait libéré un lion enragé qui comme tu as dit, est arrivé là avec, il n'avait pas le droit de perdre pour lui. Puis, tu sais, souvent, cette pression-là, puis tu craques, mais lui, ça n'a pas craqué, ça l'aidait à être encore meilleur. Donc, peu importe la note que je donnais à Brendan, je pense que c'est injuste. Donc,
okay.
Je pense que je vais m'abstenir.
Alors, on va passer maintenant à l'autre attraction principale de la soirée qui mettait en vedette Jonathan Meunier, qui devait affronter Manad Abella pour un combat de championnat. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à la pesée qui a fait en sorte que il n'y a pas eu de combat de championnat. Tout d'abord, moi, je le redis, je le dis tout le temps, j'ai peut-être deux combattants chouchou sur la scène québécoise. C'est Olivier Aubin-Mercier, à qui je lui ai parlé. On a fait une entrevue avec lui quelques semaines avant son premier combat amateur. Et j'ai... moi, c'est la personnalité d'Olivier Aubin-Mercier. J'adore ce garçon-là. Je suis prêt à l'adopter. Et Jonathan Meunier, c'est la même chose. Je le suis depuis ses débuts amateurs en kickboxing. Je l'ai vu briller. Je vois en lui, il y a une intelligence dans le ring debout que plusieurs n'ont pas. Il a des qualités exceptionnelles. C'est... combattant que j'adore aussi. J'ai un attachement particulier pour ces deux athlètes-là, mais je me dois de demeurer objectif et c'est comme ça qu'on va parler de ce qui s'est passé pour le combat d'hier. Mais d'abord, parle-nous de la pesée. Il s'est dit bien des choses. Vous avez repoussé l'heure de la pesée. C'est ce qui a fait en sorte que Jonathan n'a pas été en mesure de respecter le poids?
Non, pas du tout. Ça, c'est... Ménad Abella était l'adversaire de Jonathan. Il avait les mêmes règles à suivre que Jonathan. Il avait reçu le même horaire que Jonathan. Il a su, comme tous les autres, dont Jonathan, que la pesée était à 11 heures. Puis lui, il a manqué le poids, puis il est arrivé sur l'estrade. Il n'y avait pas d'excuse. Ça m'a un petit peu déçu que Jonathan arrive avec cette excuse-là. Je pense qu'il n'a que lui à blâmer pour sa perte de poids ratée et de pas beaucoup, soit dit en passant, de 0.2.
D'ailleurs, il n'y a pas moyen au Québec, la RACJ ne permet jamais...
Non, il ne permet pas une heure, mais par contre, la pesée officielle est à l'endroit où a lieu la pesée à 6 heures le matin. Donc, les combattants avaient 5 heures pour venir essayer la balance officielle. Donc, c'est plus qu'une heure de plus. Ils ont eu 5 heures au total pour venir la vérifier. Tout ça pour dire que même si la pesée avait été à 11h30, Jonathan est rentré dans la salle à 11h38. Donc, et il a embarqué sur la balance, je pense qu'il était 11h52. Donc, l'excuse du la pesée a été repoussée, c'est pas valide pour moi. C'est bon. Il a raté son coup. C'est arrivé à d'autres gens dans le passé qui sont des grands athlètes.
Il a manqué de rien, là. Il probablement. En fait, je pense qu'il a manqué moins que. Ou à peu près. Là, exactement la même chose que lorsque Georges a défendu sa ceinture contre Nick Diaz. Et finalement, on avait passé ça sous silence. Rappelle-toi. Que la RACJ lui avait permis... parce que dans un combat de championnat, il n'y a pas une livre de tolérance, contrairement à des combats réguliers. Et on avait...
Ouais, il est à 170 livres. Mais tu sais, regarde, je pense que Jonathan va apprendre de cette expérience-là. Je pense qu'il va plus se fier à des petites balances de pharmacie pour son poids. Je pense qu'il va venir vérifier son poids plus souvent. Je pense que il va modifier certaines choses à ce niveau-là, mais bon, c'est sûr que pour nous, en tant qu'organisation, c'était extrêmement décevant. On passe d'un combat pour le championnat à un combat régulier. On passe d'un 5 rondes à un 3 rondes. On passe de ton adversaire qui est de ton combattant vedette qui est en demi-finale, malheureusement, est dans tous les médias de la ville, comme quoi, oups, il a pas fait le pas, c'est plus un combat de championnat. T'sais, c'est sûr que ça a été probablement le seul aspect négatif médiatiquement de cet événement-là, donc c'est sûr que c'est décevant. Mais le plus important, c'est que on apprend de tout ça, puis on revient meilleur. Puis je pense que c'est ce qui va arriver avec Jonathan à ce niveau-là.
Au moment où où vous vous apercevez que Menade vous ne fait pas le poids, à ce moment-là, le combat de championnat demeure, mais il y a seulement Jonathan qui aurait pu se mériter la ceinture. C'est ça, devenant une victoire.
Exactement. Mais tu sais, c'est important de mentionner que ni moi, ni personne dans mon équipe sait que Menade ou Jonathan ne vont pas faire le poids parce qu'ils sont pas venus tester leur poids dans le délai devant nous, là, tu sais. Donc, on pouvait pas savoir que ni un ni l'autre n'allait pas faire le poids.
Vous, à 11h30, vous vous doutez d'absolument rien, là.
Absolument rien. Okay. Absolument rien. Même que Menade...
Attends, lorsque la pesée commence à 11h, est-ce que, évidemment, vous vous apercevez que Jonathan n'est pas présent et que les autres combattants, je pense que l'ensemble des autres combattants, ils sont là.
J'ai appelé Philippe Dupont sur son cellulaire, j'ai dit Jonathan est où, il dit ah, c'est beau, il sort de son dernier bain, il s'habille, puis on s'en vient, il était peut-être 11h08, quand on voyait qu'il est en retard. Puis là, Philippe, j'ai dit, il est correct, il fait le poids, puis Philippe m'a dit oui, il fait le poids, c'était beau. Bon, ça veut dire que probablement que la version de Jonathan est véridique. Okay. Lui a embarqué sur sa balance de pharmacie. Ça disait 170 livres, puis il s'est fié à ça.
OK. Parlons maintenant du combat en tant que tel. Il y a eu des huées, je pense, pour deux combats dans l'événement, dont celui mettant en vedette Jonathan Meunier. Et Jonathan est allé chercher la victoire par décision, mais ça n'a pas été le combat le plus excitant. Ça a été, en fait, l'un des combats les moins excitants de la soirée. Et moi... Jonathan a tellement de talent. Jonathan, pas non seulement peut faire plus, mais aurait dû en faire beaucoup plus. Je sais que c'est pas facile. Il est arrivé dans des circonstances où il y a eu un changement d'adversaire à la dernière minute. Mais Jonathan Meunier a tout ce qu'il faut pour affronter n'importe qui sur la planète et bien faire. Il y a un cas comme Menad Abala, qui est peut-être un bon combattant, mais je pense pas qu'il a la moitié du talent de Jonathan. Je crois que j'ai été déçu. Pour moi, il n'y a pas de doute. Là.
Je vais te dire honnêtement, oui, tu as raison, Jonathan est excessivement talentueux. Jonathan a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Il est très bon, il frappe fort. Techniquement, il est en position debout, il est exceptionnel. Il a beaucoup, beaucoup amélioré son jiu-jitsu brésilien au fil des années à travailler avec Firas Zahabi. Philippe Dupont, son entraîneur de la première heure, continue de faire un excellent travail avec lui. T'sais, Jonathan, c'est le package complet. Mais tu sais, je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, Marc-André Barriot, plus il se met de la pression, plus il est bon. Alors que Jonathan Meunier, plus il se met de la pression, je pense que plus ça le fait réfléchir. Puis ça, c'est ce qui est arrivé hier. Il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Il était la demi-finale, il savait qu'il y avait Marc-André après lui, il fallait qu'il livre la marchandise, il fallait qu'il montre que le roi dans la ville, c'était lui. Et ça, toute cette pression-là qu'il s'est mis a fait qu'il s'est mis à réfléchir pendant le combat, puis il n'a pas livré le type de combat qu'il aurait voulu livrer. Je pense que ce que les gens ont reproché à Jonathan dans leur huée, c'était ils voulaient que Jonathan soit plus agressif, tout le monde voulait que Jonathan soit plus agressif parce qu'on sait que quand Jonathan est agressif, on l'a vu chez les amateurs, il donne tout un spectacle. Mais tu sais, il y a des points qu'il ne faut pas oublier là-dedans. À la défense de Jonathan, bon, il affrontait quelqu'un. Il n'a pas fait un camp d'entraînement pour un gaucher. Il n'a pas fait un camp d'entraînement pour le type de combattant que Menad Abela est. Et tu sais, je pense que Jonathan, que ce soit chez les amateurs ou tous ses combats chez les professionnels jusqu'à récemment, a été dominant, a battu tout le monde. Il n'y a jamais eu d'adversité vraiment, même s'il affrontait certains adversaires de qualité. Ça se passait tout le temps très, très bien pour lui. Puis est arrivé le combat contre Francis Charbonneau, où il a reçu la grosse droite de Charbonneau et que les lumières ont failli s'éteindre. Finalement, il est revenu, il a gagné. Puis je pense que depuis ce combat-là, Jonathan est beaucoup plus défensif, beaucoup plus patient, beaucoup plus, beaucoup plus méthodique. Et ça donne une version de Jonathan qui n'est pas celle que les gens connaissent, que ses fans à lui connaissent. Puis hier, c'est pour ça qu'il y a eu des huées, je pense. Mais Moi, je suis certain que Jonathan va être de retour le 21 septembre. Il l'a dit lui-même, puis je suis certain qu'il va être de retour et qu'il va mettre un petit peu plus de sauce piquante dans la sauce.
Question d'un auditeur. On nous demande combien de combats Jonathan a signé avec TKO. Si ma mémoire est bonne, lorsque vous étiez en studio, vous nous aviez dit 3.
Oui, c'est 3 combats.
Alors, il lui reste 2 combats sous contrat avec TKO. Est-ce que son prochain sera nécessairement TKO 45 au centre Vidéotron?
Je pense que oui. Je pense que Jonathan, c'est un athlète qui aime ça faire des camps d'entraînement de 10-12 semaines. 10-12 semaines, c'est 3 mois. Tu vois, puis bon, après un combat, il va souvent vouloir se reposer un peu. Donc, si c'est le 21 septembre, lui, il voudrait un camp d'entraînement qui commence le 21 juin. Et entre ça, on a seulement un événement qui va peut-être même être un petit peu plus tard, le 29 juin. Donc, je pense pas qu'on va le revoir ni en juin ni en août. Je pense que c'est en août, pardon.
Donc, vous avez deux événements entre. Vous avez donc.
Juin et août.
Oui.
Mais si on part du principe qu'il veut faire un camp d'entraînement de 3 mois, il n'y a aucun de ces deux événements-là qui cadre. Donc, le prochain qui cadre serait celui du centre Biotron en septembre.
Alors, septembre, le 21, ce sera TKO 45. Est-ce qu'on prend pour acquis que son adversaire sera le Brésilien Pedro Kocinski, celui qu'il devait affronter initialement?
Je pense que oui. Je pense que c'est un combat qu'on a moussé. C'est un combat qu'on voulait voir. C'est un combat que je veux toujours voir. Kocinski est très bon. Puis je pense que justement, Kocinski, c'est le type d'adversaire qui va aller chercher ce petit oomph de plus chez Jonathan. Parce qu'il est très, très agressif. Puis il va. Puis je veux rien enlever à Ménade. Puis lui avec est arrivé à Québec sans camp d'entraînement pour affronter Jonathan. Puis bon, on n'a pas vu hier la meilleure version de Ménade Abella. Il est vraiment meilleur que ça. Mais là, je reviens à ce que je disais, Kocinski, lui, il va rentrer dans la porquette, comme on dit. Il va rentrer dans la pochette, puis il va mettre de la pression sur Jonathan. Ça va être rude, puis ce sera pas beau, ça va être vraiment... Il va foncer, c'est un vrai bagarreur, c'est une version bon différente, mais c'est un Vanderlei Silva, c'est un pitbull. Donc Jonathan pourra pas faire le même genre de combat, sans bousculer face à Kocinski Junior, fait que c'est pour ça que c'est un combat qu'on aimerait faire.
Il y a également des auditeurs qui nous suggèrent des noms. Il y a Brendan Thatch, évidemment, qu'on a mentionné à l'émission et de qui on a parlé à de multiples occasions. Les gens se souviennent de lui chez Instinct en 2011-2012 et également son début spectaculaire à l'UFC. Évidemment, on rêve d'une confrontation Thatch et Meunier. Il y a également le nom de Paul Daly qui revient. Je sais que Paul, en tous les cas, je pense que son avenir était incertain avec le Bellator et finalement, il va affronter, si ma mémoire est bonne, John Fitch. Est-ce que ces deux noms-là, et moi, j'aimerais beaucoup voir Cédric Doumbé, qui est un ancien champion Glory, qui veut se mettre en MMA. Est-ce que ce genre de noms-là, c'est possible éventuellement pour faire des combats d'une vraiment là de niveau international au centre Vidéotron ou ailleurs lors d'un événement TKO?
Ben c'est sûr. Bon, je m'en cache pas, j'en ai parlé souvent et j'en ai parlé sur ces ondes-là aussi. Brendan Thatch, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Un combat contre Jonathan, c'est un naturel, évidemment. Par contre, il peut se passer beaucoup de choses d'ici au 21 septembre, là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, c'est un combat que j'aimerais voir. Étant donné notre désir de faire de prochain combat à Jonathan, un combat de championnat des 170 livres, c'est sûr que si Brendan ne gagne pas de combat d'ici là, on peut pas le faire parce que, bon, dans la réglementation qu'on a créée pour régir nos titres et qu'on veut respecter, tu ne peux pas combattre pour un titre TKO en revenant d'une défaite. Donc, malheureusement, Brendan ne pourrait pas être éligible à un combat de championnat, mais comme je viens de dire, ça se peut, tu sais, je veux dire, on sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que Brendan va faire un combat en juin à Denver, puis va gagner, puis là, on va pouvoir, à ce moment-là, faire un combat de championnat. Mais malgré cette réponse que je viens de te donner, mon premier choix demeure Pedro Kocinski Junior.
Alors voilà qui est fait sur cette confrontation. Alors les résultats, les notes pour Jonathan Meunier et Ménade Abella.
Jonathan, je vais lui donner une note de 7 sur 10. Belle performance, belle victoire, mais je pense qu'il aurait pu en donner plus au niveau de l'agressivité. Mais à quelque part, je comprends aussi pourquoi il a fait ça. Mm-hmm. Un gaucher, dernière minute, changement d'adversaire, le stress, sa ville, peut-être des flashbacks de la droite de Charbonneau, vouloir bien paraître. Mais je pense que maintenant que c'est fait, puis faut pas oublier une chose aussi que j'ai pas dit depuis le début, il y avait peut-être la rouille aussi, ça fait quand même un an et demi qu'il s'est pas battu.
Il y avait beaucoup de choses.
Il est parti de l'UFC, c'était en direct sur UFC Fight Pass. Je reviens et je répète, sans vouloir faire de comparaison, c'est des athlètes différents. Tout le monde est différent dans la vie aussi. Mais tu vois, toute cette pression-là, Joe la gère différemment que Marc-André Barriot. Marc-André Barriot, plus il y en a, plus il va être performant. Jonathan, plus il y en a, plus il va se poser des questions. Mais je pense que, ceci étant dit, à son prochain combat, justement, cette pression-là, bon, le 18 mois d'inactivité, changement d'adversaire, être sur UFC Fight Pass après être parti du... Ça va tout être disparu, donc ça va faire peut-être, ça va avoir aidé... Mm. La soirée d'hier soir va avoir aidé à la prochaine performance de Jonathan, je pense.
Mais moi, ce que je sais, c'est que Jonathan est ultra talentueux. C'est qu'on n'a pas vu, je pense, ce que Jonathan peut faire dans la cage. Jonathan, c'est quelqu'un qui a des habiletés là extraordinaires. On n'a pas vu le quart de son potentiel hier. Il peut faire beaucoup plus. Je suis convaincu qu'il va faire beaucoup plus. J'espère qu'il n'est pas trop entouré de renifleurs de pets qui lui disent que tout va bien, puis c'est une victoire importante, c'est aller chercher la victoire. Non, non. T'es Jonathan Meunier, t'as tout ce qu'il faut pour faire beaucoup plus que ça. Et tu sais, Jonathan, il aimerait combattre, voir du pays, aller se battre dans d'autres organisations. C'est ce qu'il a dit lors des conférences de presse et tout ça. Oui, il veut continuer avec TKO, mais je pense qu'il veut aussi aller voir du pays. Vu qu'il peut plus combattre à l'UFC, tu sais, les organisations au Japon, même le Bellator et tout ça, on veut des combattants spectaculaires. Pour aller chercher de l'argent dans ce sport-là, il faut pas seulement gagner des victoires. Parlez-en à Ben Askren, qui a peut-être réussi à faire quand même son argent, mais il aurait pu faire beaucoup plus en changeant peut-être quelques petites choses. Et Jonathan, en plus, c'est qu'il a les habiletés. Et moi, je l'ai vu faire des choses exceptionnelles en amateur face à des bons combattants et j'ai bien hâte de revoir le 21 septembre prochain au Centre Vidéotron avec, je pense, il va falloir que Jonathan ait une approche différente face à son prochain combat et à son prochain défi, change quelques petites choses. Alors, 7 pour Jonathan Meunier et Menad?
Ben Menad est arrivé puis comme j'ai dit, c'était à la dernière minute, pas de camp d'entraînement, coupe de poids difficile. Je pense que dans les circonstances, je vais lui donner un 6.
Un 6 pour Menad Abella, qu'on va revoir, j'imagine, dans un événement ultérieur.
Oui, j'ai eu des discussions avec lui, j'ai parlé à son agent aussi. On va le revoir, mais cette fois-ci, ça va être ironique. J'ai hâte d'avoir ta réaction.
À 155 livres?
Mais à 155.
Ben non, en fait, je comprends. Non, je comprends ça, mais absolument que je comprends ça. 155 livres, et je trouve pas ça ironique. Il a pas fait le poids, mais il a pris le combat à quelques jours d'avis. Ça, c'est quand même un processus de couper le poids.
Pour plusieurs personnes, les gens comprennent pas. C'est pas juste coupe de poids. Bon, parfait, je fais le poids. Une grosse semaine, pas une semaine seulement, c'est une diète de longue durée. Tu sais, Kevin Lee, là, c'est le genre de combattant que l'UFC, sur lequel l'UFC ne peut pas compter pour un combat de dernière minute à 155 livres. Parce que lui, faire le poids, c'est pas juste l'histoire de la déshydratation de la semaine de l'événement, c'est aussi une diète de 3-4 semaines pour arriver au poids nécessaire pour faire une coupe de poids. Donc, Menad n'a pas eu la partie diète pour lui possible. Donc, c'est souvent, dans la vie de tous les jours, exemple, je donne l'exemple de Kevin parce que c'est quelqu'un qui fait des grosses coupes de poids, puis j'en ai fait partie, donc je connais tous les détails. Mais tu sais, Kevin, dans la vie de tous les jours, pèse environ 190 livres et il n'est pas gras, là. C'est 190 livres naturels avec probablement pas une once de gras, là. Donc lui, il doit faire une diète pour abaisser son poids à 170, 175, 170 environ. Puis pour la semaine de l'événement, et là, le reste, c'est une déshydratation de 15 à 16, 17 livres. Mais imagine si l'UFC l'appelle, veux-tu te battre la semaine prochaine? Il est à 190 livres, il va pas être capable de...
C'est impensable. C'est impensable. Donc, Passons maintenant. Écoutez, j'ai pleuré durant le combat, je pense. Il y a une larme qui a coulé sur ma joue. Sébastien Ruiz face à Jesse Arnett. Quelle histoire de fou, Stéphane. Le kid a 19 ans. Lorsqu'il est venu à la conférence de presse, c'était, je pense, mardi ou mercredi, au centre du Vidéotron, il avait l'air plus ou moins conscient de ce qui se passait autour de lui. Même avant le combat, il me donnait pas confiance. 19 ans à peine. Vous nous dites qu'il y a 3 victoires en arts martiaux mixtes, mais il n'y a pas vraiment d'image. Apparemment champion du monde de Muay Thai, mais bon, il y a champion du monde et champion du monde dans le monde du Muay Thai. C'est difficile de vraiment de vraiment jauger tout le talent d'un athlète. Alors je m'attendais à un carnage, quelque chose de pas beau. Et finalement, on a eu le combat de la soirée. Et finalement, on a eu une révélation. Et finalement, il y a eu 2 demandes en mariage hier au centre Vidéotron. Il y a eu Marc-André Barriot qui a demandé Jade Masson-Wong en mariage. Et juste pour vous dire, elle a dit oui, heureusement. Et il y a Sébastien Ruiz qui nous a demandé en mariage. On était 4712 à dire « Ben oui, quand tu veux, où tu veux, Sébastien.
» Ouais, Sébastien a été incroyable. Je tiens à te corriger avant de continuer à son sujet. Il est bien 3 victoires, aucune défaite. Par contre, c'est des combats qui ont eu lieu au Pérou. On a eu la confirmation des dates des adversaires. J'ai eu les photos des combats.
Oui, mais tu sais, Stéphane, que je suis un peu plus vigilant depuis...
Oui. Vigilant, incluant moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les vérifications. Le combat qui est listé sur Sherdog et sur Tapology, c'était pour un promoteur et il a fait un autre événement avec un autre promoteur, c'était un tournoi, il avait gagné un tournoi à 4, il avait gagné les 2 combats. En boxe thaï, il est 17-0, mais je vais être honnête avec, je vais vraiment aller dans le même sens que toi. En boxe thaï, il y a beaucoup de champions du monde
Ben, présentez-moi un
qui ne veulent pas dire grand-chose.
Montre-moi un combattant de boxe thaï et ça va être probablement un champion du monde.
Oui, mais dans le cas de Ruiz, quand il a gagné ce titre-là, c'était contre quelqu'un que je connais, moi, un thaï qui est très, très, très bon. Donc, ça donne de la légitimité à son titre. En kickboxing, il est vaincu aussi. Donc, tu sais, mais moi... outre tout ça, je me souviens quand on cherchait un adversaire pour Arnett, c'était très, très, très compliqué. Il y a personne qui voulait, il y en a qui voulaient, mais étant donné qu'ils n'osaient pas vraiment se battre contre Arnett, demandaient des sommes d'argent astronomiques. Donc, c'était vraiment compliqué. Puis bon, on est vraiment, moi, je faisais des appels de mon côté. Patrick en faisait de son côté. J'avais plein d'amis dans les districts qui faisaient des appels partout. J'ai Monty Cox qui appelait partout. J'avais Brian Butler qui appelait partout. J'avais en fait plein d'agents amis avec qui je travaille, qui m'aidaient, qui cherchaient. Puis finalement, j'ai contacté Adriano da Silva, un entraîneur du Brésilien. Parce qu'évidemment, pour affronter Arnett, ça peut pas être n'importe qui, tu sais. Puis j'ai parlé à Adriano da Silva, qui a une très grosse école de jiu-jitsu brésilien à Newark, au New Jersey. Dans le New Jersey, puis il m'a parlé de Sébastien Ruiz. Regarde, j'ai un kid, ici, champion du monde de Muay Thai, il n'a jamais perdu un combat de sa vie. Il a juste 3 combats à MMA par contre. Puis là, j'ai dit, ouais, non, c'est pas vraiment le profil qu'on recherche. Mais il dit, ouais, mais il peut battre Jesse Arnett. Là, j'ai comme tendu l'oreille, puis j'ai écouté ce qu'il disait. Regardez, ça fait pas longtemps qu'il est dans mon club, il est déjà rendu ceinture bleue. Puis à chaque fois qu'on l'amène avec des lutteurs, personne n'est capable de le garder au sol, il scramble super bien. Puis là, il me le vendait, puis tu sais, quand un entraîneur ou un agent vend un athlète, il faut que t'en prennes, puis il faut que t'en laisses, tu sais. Puis, mais il était tellement sincère dans ce qu'il disait, il pleurait quasiment au bout de la ligne pour que Sébastien ait le combat. Puis, finalement, nous, on avait un autre, il était un petit peu le plan B, Sébastien. Quand le plan A, quelqu'un qu'on voulait vraiment pour ce combat-là, finalement, dit « Ah, je pourrais pas faire le poids à temps », je l'ai rappelé, je dis « Regarde, on va lui donner le combat, let's go ». C'est un petit peu la seule option qui nous reste, puis il faut régler ça aujourd'hui. Puis puis Adriano m'a dit « Regardez, vous avez pris la meilleure décision. Regarde bien ce qu'il va livrer vendredi soir prochain ». Puis je savais pas vraiment à quoi m'attendre, honnêtement, mais je me on fait des meetings d'avant-combat avec Robin Black et John Randine, qui sont nos animateurs pour la télé américaine anglophone. Puis Puis, quand on a parlé de ce combat-là, c'était tout le temps la même chose. C'était l'inconnu, mais je ramenais tout le temps les paroles d'Adriano da Silva. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans la cage hier soir. Ruiz a été impressionnant. Il a envoyé Arnett deux fois au tapis.
Il l'a ébranlé, là, pour vrai.
Oui, il est tellement passé proche de gagner ce combat-là. Dans tous les combattants qui ont perdu un combat chez TKO depuis le retour, il n'y a personne qui a passé proche de gagner comme Sébastien Ruiz.
C'était exceptionnel. Ici, un endroit sur Terre où vous ne voulez pas être, c'est dans l'étreinte de Jesse Arnett lorsqu'il tente un bravo choke. Il a remporté 5-6 combats de cette manière-là. Il a battu à deux reprises Dimitri Wardenberg par ce type de soumission-là. Pour ma part, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit sur au monde où je voudrais pas être que dans l'étreinte de Arnett. Peut-être dans un spectacle de Lord of the Dance. Je pense que c'est les deux seuls endroits où je veux pas être dans ma vie, là. Et lui, il y a été pas alors qu'il restait 5 secondes dans un round. Il a été pris dans un bravo choke pendant quoi? Une minute et même plus. Il a réussi à sortir de là. Juste pour ça, Sébastien Ruiz, je sais pas quoi dire, Stéphane.
Il a fait beaucoup de choses, Sébastien Ruiz, dans ce combat-là. Il a ébranlé Jesse Arnett. Il a envoyé Jesse Arnett au tapis. Il est sorti de deux ou trois grosses prises de soumission qui étaient barrées.
L'étranglement arrière, c'était verrouillé.
Il s'en est sorti. Il a donné un spectacle. Il a été arrogant à souhait.
Oui, on n'a pas parlé de ça.
Il a fait exactement ce que les gens veulent, que les athlètes. Il s'est donné à 100%, sans limite. Puis, c'est pour ça que les gens payent si cher pour venir voir des spectacles, des événements comme ça. C'est pour voir des athlètes qui viennent, puis qui nous surprennent, puis qui se donnent à 100%. Puis, tu sais, Ruiz, lui, ça a été pour moi, outre Marc-André qui est arrivé et qui s'est transformé en super Marc-André, Ruiz a été le combattant de la soirée. Là, puis malheureusement, il a perdu, mais il a livré toute une performance et surtout, il a donné un spectacle aux gens de Québec. Puis je pense que si je faisais un sondage aujourd'hui parmi les 4000 personnes, les 4712 personnes qui étaient là au Centre Vidéotron, et je leur demandais qui vous voulez plus revoir en septembre, je pense que dans le top 1 ou 2, il va y avoir Sébastien Ruiz.
Oui, et bravo aux spectateurs, les gens qui étaient là au Centre Vidéotron hier. Et je suis sûr que c'est la même chose, les gens dans leur salon qui ont écouté l'événement, qui ont regardé l'événement à Fight Network ou sur UFC Fight Pass. J'ai regardé quelques commentaires d'ailleurs sur Twitter. Les gens, bon, d'abord au Centre Vidéotron, parce qu'on s'est tous levés après sa performance. Et c'était pas seulement pour saluer le travail du champion, mais c'était pour Sébastien Ruiz. Les spectateurs qui étaient là, les 4712 spectateurs qui étaient au Centre Vidéotron, vous avez été intelligent hier, vous avez su apprécier le travail, le cœur d'un athlète qui n'est pas d'ici. Et ça, malheureusement, des fois, moi, je suis déçu parce que y a des combattants de l'étranger qui donnent un spectacle extraordinaire, puis on les félicite pas. Mais c'est tout le contraire, hier, les gens ont apprécié le travail de Sébastien Ruiz.
Les gens ont vraiment embarqué dans ce combat-là. Même Martin Tremblay, qui est assis près de moi de Québécois, le grand patron du Centre Vidéotron. Il s'est levé venu me voir après le premier round. Il m'a dit « Wow, 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 wow ».
Et lui, on ne le laisse pas partir. On ne laisse pas quitter le pays, là, Sébastien Ruiz. Genre, on l'attache pour 10 combats, là.
Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il est encore à Québec.
Mais là, faites-le.
Son vol a été annulé. Il est à Québec jusqu'à lundi.
Alors,
donc, il va profiter de la vieille capitale.
Non, mais il faut l'attacher à long, très long terme, là.
Il a déjà un contrat de plusieurs combats avec TKO, mais c'est certain que c'est déjà devenu une coqueluche. Les gens veulent le revoir, il est charismatique. Imagine, il ne dit pas un mot anglais, pas un mot français, mais vraiment, il se donne tellement dans la cage que les gens l'apprécient.
Maintenant, c'est quoi l'avenir de Sébastien Drouet? C'est quoi son prochain combat? Moi, j'aimerais le voir face à quelqu'un de relativement près de son âge, de son expérience. Il a 19 ans, le kid. Il a fait quelque chose d'extraordinaire hier. Bon, il a perdu contre Jesse Arnett, finalement par guillotine, mais il a livré un combat extraordinaire. Extraordinaire, mais extraordinaire. Mais il a seulement 19 ans. Moi, j'aimerais le voir face à quelqu'un de relativement son âge. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête pour... Sébastien Drouet.
On n'a rien vraiment en tête là à brûle pour point. Par contre, à 135 livres, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Hein. Il y a beaucoup d'athlètes. On a Mathéo Vogel, on a Frédéric
Dupont. Ben oui.
On a Tariq Ismaël.
On a Samuel Moisan hier. Parce que là, malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler parce que tu nous quittes après la première heure. Mais Samuel Moisan a fait ça comme un chef hier pour lancer l'événement avec toute une maîtrise. Chapeau,
On a une tonne de 135 livres.
Là, il y en a trop, là.
Je déteste commencer à les nommer parce que c'est sûr que j'en oublie un.
On oublie le japonais. On a oublié le japonais.
Kudino.
Tariq Ismaël. Stéphane.
Ismaël, je l'ai nommé. Il y en a vraiment beaucoup.
TKO pourrait faire des événements juste avec des 135 livres.
Oui, il y a beaucoup de talent. Puis là, hier soir, on en a ajouté encore avec justement Ruiz, Moisan. Tu sais, il y en a d'autres à 135 qui ont perdu, mais qui sont très bons. Mais regarde, ça va être très intéressant de voir les décisions qui vont être prises pour Sébastien Drouet.
Les notes?
Arnett, tu sais, lui, là, il se donne tellement aussi. On n'arrête pas de parler de Sébastien Drouet, mais Arnett, depuis qu'il est arrivé à Québec, il s'amuse avec les gens, il se donne lui aussi beaucoup. Je vais lui donner un 9 sur 10.
Et là, tu peux pas me dire autre chose que 10 pour Ruiz.
Et Ruiz, exactement, je suis obligé, malgré qu'il a perdu le combat, je suis obligé de lui donner une meilleure 9 que le champion. Juste pour tout ça, puis il a pris le dernier combat à la dernière minute face à un champion qui avait gagné 11 combats consécutifs. Lui, c'était seulement son 4e combat dans Marceau Mix. Son premier combat à l'extérieur de son pays. Franchement, bravo à Sébastien Drouet.
Est-ce que Sébastien Drouet, son prochain combat pourrait être à Québec?
Non, je pense qu'on va l'utiliser sur la carte du 2 août à Montréal.
Ça va être à la TAU?
À la TAU, oui, ça va être Fight Night. Puis probablement que si ça se passe bien pour lui, au niveau pas de blessure, qu'on va le ramener à Québec. Je pense que les gens vont... C'est sûr qu'on va
nous
le demander pour Québec.
Ben on l'attend. On le veut. Je pense que les gens sont prêts à se cotiser pour qu'on paye sa bourse, paye son déplacement. On est prêt à le faire vivre, Sébastien. On est prêt à l'adopter, là. Alors, chapeau. Tout un combat, celui-là. En tout cas, à mon sens, c'est le combat de la soirée. Est-ce que c'est ton combat de la soirée également?
Ça a été un des... Oui, je parle, oui.
Alors, phénoménal, Sébastien Ruiz. Maintenant, poursuivons. On est rendu maintenant à Dandashka face à Itcho Larenas. Itcho, on savait, il n'y a pas personne d'inarquable dans ce sport-là, mais Itcho a démontré qu'il avait tellement un bon menton dans le passé. On se souvient tous de ses combats face à Steve Bossé, mais hier, c'était comme un coup de taser qu'il a reçu. Coup de circuit qui s'est passé, une chute, un coup franc, une seule frappe, ouais. Et c'en était fait.
Mais peu importe la qualité de... Que ce soit n'importe quel athlète dans ce sport-là, peu importe à quel point tu es capable de prendre des coups, peu importe à quel point tu as un bon menton, quand tu reçois une tornade comme ça sur l'oreille, c'est sûr que tu t'en vas au tapis, là, j'essaie de penser à un nom de quelqu'un qui a un menton.
Ouais, mais en même temps, Stéphane, j'en ai vu des gars tomber en Muay Thai, en kickboxing. Les gars tomber de cette façon-là. On en a vu toutes sortes de chutes, mais vraiment, on aurait dû un choc électrique, là.
Ben, c'était. Un coup à l'oreille. Un petit peu comme Georges, j'avais reçu un coup à l'oreille contre Pat Terrell aussi. C'est l'endroit où ça pardonne pas du tout. Tu sais, souvent, tu es supposé avoir tes mains qui bloquent à ce niveau-là. Ça n'a pas été le cas pour Itcho. Et si tu regardes la séquence, au même moment où il reçoit le coup, il envoie une solide gauche à Adam en même temps. Une solide droite, désolé. Je suis à l'envers, là. Puis Adam recule. puis finalement, ben, il tombe, lui, il tombe, puis il s'écroule, puis il se relève pas. Mais ça a été, le temps que ça a duré, 3 minutes 29, ça a été un bon combat. Ito a atteint solidement Adam quelques reprises. Je me souviens d'une grosse gauche à un moment donné, de deux doubles jabs.
Par contre, les jabs de Ditcho, pour quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de boxe dans les dernières années, parce que je pense que c'est pas son coup de prédilection, là.
Non, mais c'est un poids lourd quand même.
Ouais.
Un poids lourd, souvent, ça n'a pas besoin d'avoir la même impact qu'un poids léger. Là. Mais regarde, je vais dire à la conférence de presse, Adam a fait ce qu'il fait de mieux. Il a passé le KO à son adversaire. Puis,
est-ce qu'on va revoir Adam chez TKO? Parce que manifestement, il veut sacrer le camp. Ce qu'on n'a pas vu, peut-être, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, mais Adam est allé te faire des signes. Nous, on était tout près de la cage, mais dans l'autre côté de la cage, on n'a pas très bien vu ce qui s'est passé. Et ce qu'on a pu penser, nous, c'est qu'à cause de ce qu'il t'a fait comme geste, et là, tu vas nous expliquer ce qu'il a fait, mais c'est pour ça qu'il n'a pas pu, comme plusieurs gagnants lors de cet événement-là, parler au micro suite à sa victoire.
Il m'a fait signe qu'il restait deux combats, mais ça regarde, c'est du Adam tout craché. Lui, il pense que c'est ça, être un athlète professionnel, puis agir de façon professionnelle. Mais bon, c'est sa vision des choses. C'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'il réfléchisse.
En même temps, je pense qu'il est très, très émotif peut-être après sa victoire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en coulisses que nous, on ne sait pas dans les derniers jours? On sait qu'il y a eu de la friction dans les dernières semaines, les derniers mois, entre TKO et Adam Dajka. On n'est pas fous. On en a même parlé avec lui, avec toi. Et moi, j'adore Adam Dajka. À chaque fois, je lui pense, c'est un privilège. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de cet événement-là qui fait en sorte que ça s'est envenimé, les relations entre Adam et vous?
Moi, de mon côté, je suis un petit peu habitué de la manière qu'il agit. Le truc là-dedans, c'est que c'est comme ça qu'il a décidé qu'il va agir pour le reste de sa carrière professionnelle. Malheureusement pour lui, il va passer à côté de beaucoup d'opportunités. Cette semaine, il ne s'est rien passé de nouveau. C'est dû à Adam tout craché. Par contre, les gens dans mon équipe ont peut-être découvert une facette que moi je connaissais déjà puis que lui connaissait pas. Ça n'a pas été toujours facile cette semaine. Pour revenir à ta question initiale de l'entrevue, ça n'a rien à voir avec son signe.
Les yeux dans les yeux. Bon, t'es pas en studio, mais les yeux dans les yeux, tu me dis que je te laisse parce que tu me l'as déjà dit. Parce que, évidemment, nous, Jonathan Goulet et moi, on décrivait l'événement sur place au centre Vidéotron, puis on s'est tous posé la question, pourquoi il laisse pas Adam parler? Tu m'as déjà répondu lorsqu'on s'est parlé un peu plus tôt, mais là, tu dis-nous vraiment la vérité, Stéphane.
comme d'habitude, Ken, je dis toujours la vérité.
Oui.
À 11h30, on avait une tournée. Au niveau de la télévision, mais au niveau du centre Vidéotron, au niveau technique, pour ne pas tomber en overtime à temps double. Il y a beaucoup de combats sur la carte principale qui sont allés à la décision. Puis là, on regardait l'heure. Quand Adam Sébastien s'est rendu, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais je pense qu'il s'est rendu quelque chose comme 10h15. Donc, on savait qu'il restait pas beaucoup de temps. Il restait trois combats, donc dont deux combats de championnat. Ou dans les combats de championnat, on n'a pas le choix d'interviewer les champions, les gagnants. Donc, on manquait de temps. Donc, à partir de ce moment-là, au niveau de la télévision, on a décidé de couper les entrevues d'après-combat. Puis, bon, dans le combat d'Arnett, évidemment, on a fait l'entrevue parce que c'était un combat de championnat. Puis, le combat d'Arnett a été plus rapide que prévu. Il n'est pas allé à 5 rondes. Parce que nous, quand on fait les prévisions de temps, on y va sur la possibilité maximale. Championnat, c'est 5 rondes. Donc, à partir du moment où le combat de Ruiz et Arnett a duré seulement 2 rondes, on a gagné 3 rondes en temps. Donc, c'est pour ça que Jonathan, lui, par la suite, a pu faire une entrevue.
Alors, c'est vous l'avez entendu.
On n'avait pas voulu qu'il parle, il n'aurait pas été à la conférence de presse non plus, puis il était là.
Oui, c'est vrai, il était là, dans Dajka. Alors, Adam, son prochain combat, est-ce qu'à 100%, ce sera chez TKO?
à 1000%.
Parce que si l'UFC lui offre la possibilité de joindre les rangs de l'UFC directement, là, sans passer par The Ultimate Fighter ou sans passer par un Contenders de la série Dana White, est-ce que si l'UFC lui...
Je suis un petit peu tanné de me répéter à ce sujet-là, mais si l'UFC est intéressé à Adam, je répète, l'UFC est mon partenaire, puis je veux le savoir avant Adam.
OK. Les résultats pour Adam et Icho Larenas?
Adam, pour sa performance dans la cage, pour son combat, je lui donne une note de 10 sur 10. Il a fait ça vraiment comme parfaitement au niveau athlétique.
OK, on arrête à 10. On se croit pas d'ennemis. 10 pour Adam.
Au niveau de son attitude générale dans la semaine de l'événement, j'ai de la misère à lui donner plus haut que 4 sur 10.
Mais dans l'ensemble, là, c'est quoi le résultat là?
Ben, l'important, les gens payent pour le voir se battre.
10?
Dans le combat, ça a été 10 sur 10.
Ah, j'adore ça. Et Icho?
Icho, ça n'a pas été facile. Il a perdu le combat par KO. Par contre, il a eu le temps de démontrer certaines choses dans ce combat-là. Puis, je sais pas, il est rendu à 36 ans, Icho. Fait que je sais pas si pendant combien de temps il veut continuer encore sa carrière. Surtout que s'il veut continuer, nous, on va être là. C'est notre ancien champion des poids lourds. Puis, c'est un combat hier qu'il a pris. Tu sais, il revient à la maison, puis il affronte le numéro 1 au Canada chez les poids lourds. Donc, il a un peu de risque en venant face à lui. Mais je pense que s'il décide de revenir, c'est sûr qu'on peut le reprendre. Mais pour son combat d'hier, je vais lui donner 6,5.
D'accord. Rapidement, là, parce qu'on peut pas parler des autres combats, on doit libérer Stéphane dans les prochaines secondes. Quelques questions des auditeurs. Est-ce que Adam Daishka, son prochain combat, c'est pour la ceinture des poids lourds et est-ce que ce sera contre Rafael Pessoa?
Ce sera fort probablement pour la ceinture des poids lourds et au niveau de l'adversaire, je serais dur pour l'instant.
Et ça va être où et quand?
Probablement le 2 à août. À la feuille.
Oh, ce serait le combat principal, donc?
Ça dépend. On peut pas parce que c'est un fight night qu'on va pas faire une carte grandiose. Donc,
il pourrait y avoir deux combats de championnat, le 2 août?
Il pourrait en avoir un, il pourrait en avoir deux, il pourrait en avoir trois.
OK. Maintenant, pour l'Ontario, TKO 44, est-ce que c'est confirmé? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Lundi,
vous allez finaliser ça. Et... Ouais. Est-ce que tu peux nous confirmer des combats?
Pas pour l'instant, mais je peux vous dire que Ronson, Borgen et Larrabee vont défendre leur titre.
Tu sais, lorsqu'on s'est vu hier, je suis allé te voir, je t'ai dit, je me suis demandé, est-ce que Jesse Ronson était plus sous contrat avec TKO? Est-ce qu'il avait quitté l'organisation? Parce qu'avec quatre bannières des champions de TKO au centre Vidéotron, mais il manquait celle de Jesse Ronson. Est-ce que Jesse Ronson est encore avec TKO?
Oui, il y a eu vraiment une grosse erreur hier. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as fait remarquer. Il y a deux bannières qui avaient pas été montées. Puis quand on s'en est rendu, quand moi je m'en ai rendu compte en tout cas, c'était impossible de tout redescendre le parce que ça c'est tout installé à partir de la rigue, de la pompe de lumière, puis tout le 80 000 watts de son lumière qui grimpait dans le ciel finalement. Là. Donc il fallait tout redescendre ça pour installer ça. Puis malheureusement, on pouvait plus le faire rendu là, mais donc j'ai piqué une petite crise en arrière-scène aux gens qui ont fait l'oubli.
Et c'est ça. Des fois, on oublie, des fois, on fait des erreurs. Et il y a des gens, et la théorie du complot est toujours assez proche, là. Moi, hier, parallèlement à ce qu'on dit, on écrivait l'événement avec Jonathan Goulet, j'essayais de marquer les résultats également sur la page de La Voix des Guerriers. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai oublié le combat d'Adam Daishka. Mais... Les gens qui écoutent.
Passé avec Adam cette semaine.
Les gens qui écoutent l'émission. Les gens qui écoutent La Voix des Guerriers savent très bien mon coup de cœur, c'est Adam. Mon coup de cœur de 2017, c'est Adam Daishka. J'adore Adam.
Je veux que tu dises la vérité.
C'est ça qui arrive.
Je
Et ben c'est ça. Il y a pas Stéphane n'est pas venu te voir, il faut pas parler de ça. Stéphane, il a puis je pense qu'on commence à se connaître quand même assez bien depuis des années. Stéphane, on a eu quelques moments où on s'est engueulé, mais je pense que Stéphane me connaît, moi je connais Stéphane, il y a des choses qui sait très bien qu'il va pas il peut pas me demander de c'est il y a des affaires qui se passent avec TKO et la Voix des Guerriers, c'est indépendant. Moi j'adore c'est, Adam Dashka, il se passe des choses avec TKO et évidemment, ça me regarde parce que j'essaie d'avoir le plus d'informations possible pour vous les transmettre. Mais dans aucun cas, il y a eu un complot pour dire hey, il faut pas parler de la victoire d'Adam Dashka. Mais jamais, 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 jamais. Et Stéphane, je pense très bien que jamais il pourrait me demander quelque chose comme ça. Parce que c'est impensable. Puis je pense.
Tu penses ça?
Ben oui. Ben oui, Stéphane, tu sais très bien comment ça peut s'envenimer sur les médias sociaux. Alors, ben c'est ça. Bel événement. Pour finaliser, Stéphane, c'est déjà les billets sont déjà en vente. C'est de la folie. Il y a, par contre, une erreur, c'est marqué TKO 44 sur le site web je pense que c'est du Centre Vidéotron, mais vous revenez le 21 septembre, c'est pour TKO 45, et les billets sont déjà en vente?
Les billets sont déjà en vente. Je pense qu'on en a déjà une centaine de vendus. avec aucune publicité sans savoir qui va se battre. Donc, j'annonce à tout le monde qu'en grande finale, Martina Navratilova fait ses débuts en arts martiaux mixtes. Ça va être le seul combat de la soirée.
Non, non, hey, non, mais vraiment, ma dernière question, Stéphane. Dis-nous oui. Qui va y être à TKO 44? 45 au Centre Vidéotron. 21 septembre.
On veut permettre aux gens de Québec de découvrir nos autres vedettes qu'ils n'ont pas vues en action. Donc, j'aimerais que Charles Jourdain soit là. C'est certain que si Marc-André Barriot n'est pas allé à l'UFC, il va être là. C'est certain que Jonathan Meunier va être là. C'est certain que Samuel Moisan va être là. Les autres combattants du Jade Masson Wong vont être là, c'est certain. Les autres combattants de Québec qui ont livré une belle performance. Regarde Stéphane Lavoie, il a perdu contre Mathieu Vogel, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu.
Hey, maudit, on n'aura pas le temps de parler de ces combats-là, mais Vogel. Là.
Non, ben Patrick va t'en parler, mais honnêtement, ça va être une grosse carte. Et on va ajouter Charles Jourdain, je veux qu'il soit là. J'aimerais ça que les gens peuvent voir, peut-être TJ Laramie. Je veux vraiment offrir, je veux amener à Québec les autres athlètes vedettes de TKO qui malheureusement n'étaient pas de la carte d'hier. Mais si les gens ont aimé le TKO 43, ils vont vraiment adorer la deuxième édition qui va être présentée au Centre Vidéotron le 21 septembre.
Alors, c'est dans 139 jours, 2h10, le prochain événement TKO au Centre Vidéotron. Un grand merci, Stéphane, et à très, très bientôt.
Merci,
Ken. Bye. Alors, vous écoutez La Voix des Guerriers, c'est la radio de Lévis. On est ensemble jusqu'à 8h. Petite pause, et au cours de la prochaine heure, on va s'entretenir avec Patrick Lono également pour continuer cette belle discussion-là. Profitez, hein, il fait beau. Vous êtes peut-être dans votre voiture, sur votre terrasse. C'est pas très, très chaud. Je sais pas comment. Mais moi, de toutes les façons, à 17 degrés, pour moi, c'est un 35. Là. À partir de zéro... Début avril, moi je suis en short. La vie, ça se passe en short ou ça se passe pas. Alors, c'est magnifique, c'est confortable. En tout cas, de ce que je vois à travers la fenêtre, il y a du bleu dans le ciel. Et vous avez un compte-rendu, un retour sur un événement magistral d'hier au Centre Vidéotron. La vie est belle, les amis! Alors, petite pause, longue pause en fait, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de pauses dans la première heure. Mais on est de retour pour la suite des choses dans quelques instants.
Le cinéma débarque encore une fois à Lévis pour la deuxième édition du Festival interactif de cinéma de Lévis. Vous aurez la chance de visionner des films de tout genre, assister à des conférences avec des pros, participer à des ateliers sur le cinéma et manger ben du pop-corn. Visitez le ficlfest.com. ficlfest.com pour plus de détails sur la programmation. Vivez l'expérience cinéma à Lévis du 17 au 19 mai prochain au cégep de Lévis. C'est un rendez-vous!
96.9. Toi et nous, avec Marilyn Petit et ses invités. Une émission où on se parle dans le blanc des yeux. On discute simplement de la vraie vie parce que la vie, ce n'est pas toujours simple. Un rendez-vous 100% humain où on se dit les vraies affaires pour vivre les vraies affaires. Toi, avec des histoires, ton histoire. Nous, avec des échanges, des outils, des stratégies, les vraies affaires de la vraie vie pour simplement mieux la vivre. Toi et nous.
Tous les lundis et mercredis.
De 10h à midi sur les ondes. ondes de CJMD 96.9 FM ou au 969FM.ca.
Vous avez le goût de liberté et d'évasion? Les écoles de conduite technique vous invitent dès aujourd'hui à suivre vos cours de moto et scooter sur la rive sud comme sur la rive nord. Nous avons des horaires flexibles et des cours disponibles 7 jours sur 7. Bientôt 16 ans, informez-vous sur notre programme de cours de conduite automobile offert dans nos 12 succursales. Vous pouvez vous inscrire et assigner vos cours en ligne sur technique.ca ou nous contacter au 418-529-3868. Technique, grand formateur de conducteurs.
www.technique.ca.
Anisha Luna, Anisha Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe-gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
Anisha Luna, 88-700-0600. Pour plus d'informations, www.anishaluna.com.
C'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
Comme ça, il y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien d'être prêtes. Parce qu'eux autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe, eux autres.
La radio de Lévis. 96.9. Funky.
Qui est en train d'écouter quoi? Les 96.9 dans la radio. C'est rigolo quand même qu'ils l'écoutent dans la radio. 96.9, c'est la radio de Lévis. C'est drôle quand même, 96.9, la radio. J'ai le goût de danser ce matin. Tu l'écoutes encore? De bien?
Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio.
Là, j'ai comme la grosse montagne qui cache le géant. Tu l'as même pas vu passer pour tailler le yeah.
96.9 Talk, rock and hip-hop.
Elle est sexy
et complètement déjantée.
CJMD 96.9, le show qui donne show. Les deux snooze, danse macabre. Oubliez les préliminaires parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
96.9 CJMD.
Des ondes complètement malades. Les deux snooze, politique et correct. Elle vous fait peur? Laissez-vous tenter. CJMD 96.9.
Métal mental.
Hi, this is Henry from Alien Weaponry.
Salut, c'est Sébastien Croteau de Necrotic Mutation.
Hey, this is Britney Slays from Unleash the Archers.
Allô, ici Frédéric Ouellet de Feels Like Home.
Vous écoutez Métal Mental.
On CJMD
96.9.
The absolute finest in heavy metal.
Métal mental. Mardi, 22h, 96.9. La référence métal. Allez, partage la bonne nouvelle.
Vous avez le goût de liberté et d'évasion? Les écoles de conduite technique vous invitent dès aujourd'hui à suivre vos cours de moto et scooter sur la rive sud comme sur la rive nord. Nous avons des horaires flexibles et des cours disponibles 7 jours sur 7. Bientôt 16 ans, informez-vous sur notre programme de cours de conduite automobile offert dans nos 12 succursales. Vous pouvez vous inscrire et assigner vos cours en ligne sur technique.ca ou nous contacter au 418-529-3868. Technique, grand formateur de conducteurs.
www.technique.ca.
Vous construisez des maisons? Vous êtes autoconstructeur? Vous vous faites construire une maison?
Assurez-vous que l'air n'entre pas avant que vous y fermiez vos murs.
Parce que l'air qui entre, c'est de l'argent qui sort.
Contactez Réseau de Vinci, les experts en bâtiment.
Vous voulez vendre ou acheter une maison?
Dormez en toute tranquillité
en faisant inspecter votre maison par les professionnels de Réseau de Vinci.
Pour des conseils justes et précis.
RéseauDeVinci.com. Recommandé CAA.
Avec un nouveau bureau sur la rive sud pour mieux vous servir.
Hey, le Rina Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10$ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55$ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10$ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au Rina Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du sud.
Alerte!
emploi.
Maçonnaie aura une porte ouverte le 10 mai de 13h à 20h et le 11 mai de 10h à 16h. Les candidats qui se présentent sur place ont une entrevue garantie.
Garantie.
C'est une opportunité de découvrir nos produits et les postes disponibles. Nous sommes en recrutement pour combler 15 postes d'opérateurs de production. Les gens doivent se présenter au 445 1ère Avenue, Saint-Romuald, Lévis.
Le 10 mai de 13h à 20h et le 11 mai de 10h à 16h.
À la recherche d'une salle dans la région de Lévis, pensez au complexe Deux Glaces Onco. Que ce soit pour une réunion d'affaires, un événement corporatif, un party privé, un banquet ou autre, le complexe peut vous recevoir dans l'une de ces cinq salles, dont la salle des jardins pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Vous trouverez plusieurs avantages au complexe, services de restauration et traiteurs de qualité, services de bar, facilité d'accès, stationnement gratuit et le tout à des prix compétitifs. Jusqu'au 1er juin, mentionnez le code promo CJMD pour obtenir 15% de rabais sur les salles. Un complexe moderne, une équipe dynamique, une cuisine distinguée, un service clé en main. Appelez sans tarder au 418-839-9982.
www.complexedeglace.com.
Hey! Vous cherchez à vous afficher et à vous démarquer de la concurrence? Un nouveau logo? Une pub? Image? Express.ca a ce qu'il vous faut. Lettrage, wrapping, enseigne, bannière, vitrine. Image Express, 418-835-1789.
418-835-1789.
Visitez leur tout nouveau site web, imageexpress.ca.
1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine.
Alors, on est de retour. Il est 19h, quasiment 15 minutes. Donc, on est encore ensemble jusqu'à 20h. Et pour continuer la discussion sur TKO 43 qui avait lieu hier au Centre Vidéotron, on s'entretient avec le bras droit du président de TKO et la voix de TKO. Il s'agit de Patrick Leneau. Bonsoir, Patrick.
Bonsoir, Ken.
Patrick, revenu de toutes ses émotions au lendemain de l'événement?
Oui. De retour à Montréal maintenant, de retour à la maison. Un peu fatigué, ça a été une grosse semaine, mais on s'en est bien remis. Quand on vit une belle soirée puis un beau gala comme on a eu hier soir, on peut juste avoir le sourire aux lèvres pour les prochains jours.
Avant de parler de combat, parle-moi un peu de cette demande de mariage là. Est-ce que Jade a été pris complètement au dépourvu de ta compréhension de ce qui s'est passé?
Oui, absolument. On peut maintenant en parler. Je pense que Marc-André m'en avait parlé il y a quelques jours que c'était son intention de faire ça, puis qu'il voulait que je lui pose une question qui allait l'amener vers ça. Puis en montant dans la cage après la victoire de Marc-André, je regardais aux alentours, puis je voyais que Jade était nulle part dans l'entourage. Alors je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire. Je pense qu'on le voit d'ailleurs sur la vidéo que quand je monte dans la cage avec la décision, je regarde Stéphane tout de suite. Stéphane, t'es au courant. Puis je lui dis, ben, Jade est où? Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est pour ça que typiquement, même quand on fait des entrevues d'après-combat, on fait 2 à 3 questions. Je pense que Marc-André en a eu 4 ou 5 parce qu'on essayait d'étirer la sauce pour que Jade arrive. Et puis, ça a été un très beau moment pour tout le monde. Une belle façon de clôturer le gala. Puis surtout un beau couronnement à tout l'événement pour ce que ça a été vraiment pour Marc-André, à qui je lève mon chapeau. Marc-André et Jade qui ont fait énormément de médias, puis tous les combattants de Québec qui ont vraiment fait beaucoup de médias, mais Marc-André spécifiquement qui en a fait énormément pour ce gala-là, puis il méritait toutes les récompenses qu'il a eu hier, tant dans la cage que dans sa vie personnelle.
On a parlé de presque toute la carte principale avec Stéphane. On n'a pas parlé de la victoire d'Alex Morgan face à Peter Pettis. Évidemment, tu étais très bien installé près de l'action. Ça a été une belle performance d'Alex Morgan. L'Américain, à mon sens, nous a montré des flashs extraordinaires, qu'il était athlétique et tout ça, mais il a fait beaucoup trop peu pour, je pense, remporter la victoire. Il faut dire aussi qu'il a accepté le combat à la toute dernière minute. C'est quoi ton ressenti face à ce combat-là?
Je suis content pour Alex qui avait eu un dur camp d'entraînement avec les changements d'adversaires avec lesquels il a dû faire affaire. Puis Paris était, à mon humble avis, le meilleur de tous les adversaires qui avaient été annoncés, tant Duarte, Sengele que Paris. Je pense que c'est la plus lourde commande. Puis je suis d'accord avec ton évaluation du combat. Je pense que Paris est arrivé, a montré de très belles choses. S'il avait peut-être dansé un peu moins au premier round, j'ai pas vu les cartes individuelles des juges à savoir si c'est dans le premier que ça s'est joué. Mais s'il avait peut-être un peu moins dansé et été un peu plus actif et agressif dans son attaque, ça lui aurait peut-être permis de l'emporter. C'est quand même une décision partagée dans un combat chaudement disputé. Je sais que j'ai croisé Pérez à l'hôtel après le gala. Semblait un peu débiné. Faut garder en tête, maintenant on parle d'un combattant qui a maintenant 6 victoires, 4 défaites. 3 de ses défaites sont maintenant par décision partagée. Puis une contre un combattant qui est maintenant à l'UFC puis qui est invaincu. Alors, on parle de quelqu'un qui pourrait très bien être 9-1 au lieu de 6-4. Alors, il m'avait l'air de quelqu'un qui était peut-être en questionnement, en réévaluation, pas de son statut de compétiteur dans ce sport-là,
ouais, mais
de juste être sa stratégie en général, de peut-être changer son approche.
Ouais, parce que pour son combat d'hier, moi j'aurais envie d'y dire, garçon, t'es athlétique, t'as des bonnes jambes, il a lancé quelques bons coups de pied au corps contre Morgan, et c'est beau, moi j'aime bien les voir, les athlètes danser, feinter, mais il faut que ce soit pour construire une attaque, pour construire quelque chose, qui est quelque chose de planifié, mais danser et feinter pour construire d'autres feintes, je veux dire, c'est bien beau à esquiver puis feinter durant tout le combat, mais si tu touches pas ton adversaire, écoute, je ne sais pas s'il a lancé 5 coups dans le deuxième round. Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui pensent que l'Américain a gagné, mais moi, je vois pas comment il a pu gagner ni le deuxième, ni le troisième. J'espère qu'on va le revoir et j'espère que, comme tu nous dis, peut-être qu'il va réfléchir justement à changer un peu son plan de match, là.
Oui, exactement. Puis Pérez est sous contrat pour 2 autres combats avec nous. On est dans bien que ça a été une trouvaille de dernière minute. Je pense qu'il y a le profil parfait pour notre division des 145 livres. Il est très bon debout, montre des belles techniques. Puis je pense qu'encore là, ton évaluation de son plan de match est adéquate. Mais c'est sûr que contre d'éventuels combats contre des Charles Jourdain, des Matarlo, des combattants qui sont très bons debout dans notre division des poids-plumes. C'est des affrontements qui seraient intéressants là, dans un avenir, dans les prochains mois.
Du côté d'Alex Morgan, Stéphane a confirmé à la conférence de presse que le prochain adversaire de Morgan allait être TJ Laramie. Est-ce que ça veut nécessairement dire que le prochain adversaire de TJ Laramie, c'est Alex Morgan?
Je pense que là, j'ai pas parlé à Alex ou Pascal Chambaudy depuis le gala d'hier. Je sais pas à quel point, comme on disait, Alex avait pas l'air d'avoir reçu trop de dommages. Alors, je sais pas s'il serait prêt nécessairement pour un combat en juin.
Okay.
Mais chose certaine, TJ Laramie veut affronter Alex Morgan à nouveau et le plus tôt possible. Puis je pense qu'Alex est évidemment très intéressé à mettre la main sur la ceinture, puis il l'a bien dit dans l'entrevue d'après combat d'hier. Fait que je pense que ce serait définitivement le plan à court terme de faire ce combat-là. TJ avait déclaré sur les médias sociaux là, cette semaine qu'il avait jamais autant souhaité la victoire d'un adversaire dans sa vie. Fait qu'il a bien hâte de remonter dans la cage avec Alex et prouver que selon lui, bien c'était une erreur, une bévue de l'arbitre, puis qu'il est très bien capable de vaincre Morgan. Morgan veut prouver que justement, c'était peu importe ce qui est arrivé avec l'arbitre ce soir-là, il aurait gagné quand même. Fait qu'on a la table est mise pour un bel affrontement qui risque de pouvoir faire voir de toutes les couleurs.
Est-ce que TJ Laramie pourrait patienter et sauter l'événement qui doit avoir lieu en Ontario au mois de juin au cas où Alex Morgan ait besoin de quelques semaines supplémentaires? On le comprendra. Ça a quand même été 15 minutes. Il n'a pas été touché beaucoup, mais quand même, c'est un camp d'entraînement. C'est 15 minutes face à un gars quand même qui frappe fort. Il y avait des jambes puissantes, Peter Pettis. Alors, si Morgan dit, moi, je peux pas au mois de juin, je dois attendre au mois d'août, au mois de septembre au centre Vidéotron, tu sais que nous, on serait preneurs pour un affrontement à la Rami Morgan ici, là. Est-ce que tu penses que ça peut être une possibilité de ne pas faire combattre TJ Laramie au mois de juin en Ontario et de faire en sorte Morgan Laramie au mois d'août ou au mois de septembre?
À mon avis personnel, n'ayant parlé à aucun des parties impliquées ni à Stéphane de la situation, je vois pas comment on pourrait aller à London pour la première fois dans la ville de TJ et ne pas... À moins que ça vienne de lui, qu'il y ait blessure ou quelque chose du genre, Je vois pas comment on pourrait ne pas le mettre sur la carte. Là. Je pense que c'est un grand moment pour lui, pour son équipe aussi, là, pour tous les gens de la région. Fait que je pense que on s'attend à aller à London avec vraiment les trois têtes d'affiche, là, Malcolm Gordon, TJ Laramie puis Jesse Ronson. Alors c'est ça le plan. On va voir. Je pense qu'on se donne, Stéphane te l'a peut-être dit, là, on va se donner une couple de jours pour redescendre de tout ça. Nous connaissant, on risque de commencer à s'envoyer des messages textes ce soir et puis OK, j'ai pensé à telle chose, puis on va commencer à mettre carte portable assez vite.
Et moi, je verrais bien, de toutes les façons, admettons qu'ils s'affrontent au mois de juin, mais admettons que cette fois-ci, c'est l'Ontarien qui va chercher la victoire, ben, peut-être que ça pourrait se faire pour départager le tout le 21 septembre au Centre Vidéotron, mais là, on est loin dans le fantasme.
Oui, c'est ça, on va voir je sais que souvent les choses se font en trilogie dans ce merveilleux sport, fait qu'on va voir, comment les choses vont se dérouler. Mais chose certaine, peu importe le où, le quand et le comment, ça va être tout un affrontement. Puis je pense que les amateurs qui suivent la scène, qui suivent TKO depuis les derniers mois, vont être gâtés à nouveau.
Donc, mais on peut dire là, corrige-moi si je fais erreur, mais on pourrait facilement dire que TJ Laramie va se battre en Ontario à TKO 44 et qu'il n'a pas d'adversaire présentement, que le poste est libre et il appartient à Alex Morgan. Évidemment, si sa santé le permet, s'il le veut, ce combat-là est à lui au mois de juin face au champion.
Absolument.
OK, fantastique. Maintenant, il y a eu peut-être deux combats qui ont été moins spectaculaires au cours de la soirée, à mon avis, en tous les cas. Il y a eu celui de Jonathan Meunier face à Bella. On en a parlé avec Stéphane tout à l'heure. Et il y a peut-être également le second combat féminin entre Alyssa Crown et Sylvia Joskiewicz. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement-là?
Je pense que ça a été quand même chaudement disputé aussi. J'étais quand même pas surpris de voir une décision partagée. C'était quand même ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Sylvia, quand on a signé Sylvia Juskiewicz, au départ, l'idée c'était de la mettre contre Lindsay Garbutt, qui aurait été vraiment un affrontement debout très intéressant. Lindsay n'était pas prête à combattre sur les événements de début 2018. Alors on s'était tourné vers Alyssa Crown. Sylvia, évidemment, une spécialiste debout. Alyssa est plus adepte du sol. Je pense que l'entraîneur de Sylvia, qui est aussi son père, m'avait dit quand on lui avait offert le combat que bon, c'est Sylvia une phobie, si on veut, d'aller au sol. Elle aime mieux évidemment rester debout. Fait que je pense qu'elle était peut-être un petit peu mal à l'aise. Était peut-être un peu intimidée par les talents au sol d'Alyssa Crown. Puis de l'autre côté de la médaille, on avait Alyssa qui a essayé d'amener au sol Sylvia une couple de reprises au début du premier engagement. Ça a plus ou moins fonctionné. Je pense qu'au deuxième, vers la fin de ma mémoire est bonne, vers la fin du deuxième, elle a réussi pour la première fois. Mais ça n'a pas été très long. Puis finalement, au troisième, elle a réussi alors que Sylvia commençait à fatiguer un peu. Fait que c'était deux adversaires qui se connaissaient peut-être peu, puis qui se respectaient, qui respectaient les aptitudes l'une de l'autre en même temps. Alors, ça a donné le combat. En effet, c'était peut-être pas des grandes flamèches, mais un peu plus technique comme approche, là, de part et d'autre. Mais somme toute, je pense que j'ose espérer que les gens vont apprécier le spectacle. Puis ces deux combattantes qu'on va revoir dans les prochains mois également.
Est-ce que... en fait, quelle est la nature là, de l'entente avec... Ben, en fait, j'ai comme l'impression que Lindsay Garbutt est disponible puisqu'elle combat dans une autre organisation prochainement. Mais est-ce qu'on pourrait la revoir avec TKO, à ta connaissance, Lindsay Garbutt?
Oui, je pense qu'elle a pris un combat en Ontario. Je ne me rappelle plus exactement de la date. On connaît l'organisation là-bas, c'est typiquement, du moins à une ou deux exceptions près, c'est une organisation qui signe des combattants pour un combat à la fois parce qu'ils n'ont pas de de dates choisies à l'avance, si on veut, pour contrairement à nous qui choisissons toutes nos dates pour une année d'un coup. Eux, ils vont plutôt un gala à la fois. Alors, outre leurs quelques têtes d'affiche, c'est typiquement des contrats d'un combat. Je peux pas parler dans le cas de Lindsay, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle a comme entente. Mais c'est sûr que de notre côté, on est très intéressé à la revoir. Là, Lindsay, c'est quelqu'un avec qui c'est très agréable de travailler tant en arrière-scène, puis qui livre la marchandise dans la cage également. Je pense que les amateurs l'aiment beaucoup. Alors, de notre côté, je pense qu'on est intéressé à la revoir, c'est certain.
Alors, face à Sylvia, j'imagine, c'est ce que vous vouliez faire initialement. Alors, j'ai comme l'impression que ce serait drôlement intéressant de les voir s'affronter ultérieurement.
Absolument, oui. Pour ma part, je ne parlerai pas pour les autres qui sont impliqués dans le processus décisionnel, mais pour moi, ce serait un combat intéressant. Surtout si Lindsay peut remporter la victoire en Ontario en juin. Je pense que ça lui donnerait une fiche de 6 victoires, 3 défaites, alors contre Sylvia qui est 9-5 maintenant. Ce serait intéressant comme match-up.
Toujours chez les femmes, il y a Jade qui a remporté son premier combat professionnel et l'a dominé le premier round, plus explosive que Maggie Poulain. À mi-chemin du combat, là, Jade avait une autre adversaire devant elle, c'était la fatigue. Elle a réussi à battre cet adversaire-là. Je pense que ça a été l'adversaire la plus redoutable auquel elle a eu à faire face dans ce combat-là. Jade, vraiment, j'avais peur au troisième round. Je me dis, comment Jade va être capable de survivre durant 5 dernières minutes? Et finalement, elle a trouvé le courage de faire ces 5 minutes-là. Elle est allée chercher la victoire. Elle nous a démontré de très, très belles choses en début de combat. Et elle a prouvé que c'était une guerrière en fin de combat face à un adversaire qui est un peu, Maggie, un peu une zombie. Là, c'est-à-dire toujours en face, à marche. Elle peut recevoir tous les coups du monde. Elle n'arrête jamais. C'est un peu spécial. Mais Jade, quand même, c'est une très belle entrée en matière pour la jeune Québécoise.
Oui, puis que comme tu disais, elle a vraiment montré de la résilience. C'est drôle qu'on parle de ce combat-là parce que je viens tout juste de le revoir il y a peut-être une demi-heure à peu près. Puis c'est la même chose en le regardant à la télé que quand on était en direct. On voit vraiment que vers la fin du deuxième, Jade a un peu plus de misère. Je pense que Jade en a parlé dans les médias de Québec suite à l'affrontement. Elle expliquait que elle est asthmatique, alors c'est de faire passer à des rondes de 5 minutes, c'est une chose de le faire en sparring puis en camp d'entraînement, mais quand on arrive sous les réflecteurs et que c'est l'adversaire qui donne son 100%, des fois ça change la donne un peu. Alors je crois vraiment que c'est ça qui est arrivé dans son cas, mais là elle a quitté la cage hier avec beaucoup plus de renseignements sur ce que c'était de combattre chez les pros. De ce qu'elle est capable de faire, je pense qu'elle se connaît mieux maintenant en tant qu'athlète. Puis connaissant elle et connaissant son entourage, j'ai aucun doute qu'on va avoir une Jade Masson-Wong 2.0 quand on vient à Québec en septembre. Je pense qu'elle, comme elle me disait là, dans l'entrevue d'après-combat, ça l'intéresse de remonter, de refaire l'expérience à nouveau. Même si elle a maintenant un mariage à planifier aussi. on a très hâte de la revoir. Puis Maggie aussi a monté quand même des belles choses, comme tu le disais, elle est souvent de l'avant.
Oui.
Alors je pense que c'est quelqu'un que les amateurs vont vouloir revoir aussi.
Oui, et il y a un combat, je pense, que vous pourriez refaire à chaque événement. Et c'est Denis Mallette contre Sean Médé. C'est un beau spectacle. Des belles techniques de jambes de Sean Médé. Vraiment, c'était difficile à départager. Les deux se sont livrés une belle guerre pendant 15 minutes. Et il me semble ce genre de combat qu'on prendrait à chaque événement, ça.
Oui, puis Sean, quand Sean est monté dans la cage, il a fait son traditionnel deux ou trois tours de cage, là, si on veut, quand il est monté, puisqu'il était le premier à monter. Puis avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, était heureux. On voyait que c'était bien que c'était ses débuts professionnels sur quand même une grande scène. Était tellement content d'être là. Avait vraiment hâte, a démontré aussi un bel esprit sportif dans le combat. Je pense que vers la fin du premier round, Danny arrive pour lancer un coup de pied à la tête, glisse sur le tapis. Meade aurait pu très bien sauter dessus puis profiter de ce qui s'était passé. A pris un pas de recul, l'a laissé se relever, a vraiment été, je pense que les deux hommes se respectaient énormément. Ça a donné un très beau combat, là, vraiment, pour un premier combat professionnel. C'était pas évident, surtout que c'était un ce qu'on appelle un swing bout. Alors, le combat était originalement prévu pour débuter vers 19h, si on avait le temps.
Pour conclure la carte préliminaire, c'est ça?
Exactement, ouais. C'est ça. Et puis, avec tout ça, bon, on a bien qu'ils avaient été avisés à l'avance que si qu'on ne débuterait pas de nouveau combat après 19h10, alors ils savaient que leur combat allait être plus tard. Finalement, ils ont dû monter dans la cage vers, j'imagine, ben, quoi, 19h50, 20h à peu près, par le temps que le combat a débuté. Fait que, avoir, bien que c'est égal pour les deux, parce que les deux vivent la même situation, c'est quand même un stress mental supplémentaire. Puis les deux ont vraiment donné une belle performance là, pour un premier combat professionnel. Puis j'ai croisé Bise en arrière-scène aussi après le gala, puis on discutait de son avenir et tout ça, puis de qu'est-ce qu'il veut faire. Puis il était quand même très heureux de la situation, puis il avait juste hâte de revenir, puis de montrer ce qu'il était capable de faire. Puis il vient de Sarnia, qui était quand même à juste 1h15 à peu près de London. Alors, tout dépendant de sa condition physique, ce serait peut-être intéressant de le revoir dès TKO 44.
Alors, deux athlètes qui s'ajoutent donc chez les 170 livres de TKO. Dans le cas de Dany, j'imagine que c'était peut-être la même chose pour l'Ontarien. C'était leur première coupe de poids, en tout cas, comme première aventure chez les professionnels. Ils ont réussi à nous livrer 15 minutes de guerre quand même intense, des belles liaisons pieds-points. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans leur prochain combat, mais ça me semble être des valeurs sûres. À tout le moins debout, là, je sais pas pour l'ensemble de leur jeu, mais debout, moi je suis drôlement intéressé et preneur pour les prochains affrontements de ces deux gaillards-là. Maintenant, un combat qui... Il y en a plusieurs combats que j'ai drôlement apprécié lors de cet événement-là, mais il y a Matteo, que j'appelais Vogel autrefois, mais là, je t'ai entendu prononcer Vogel, et avec cette deuxième victoire-là, je pense que j'aurais pas le choix de le prononcer comme il faut. Matteo Vogel a été... écoutez, on parlait de résilience tout à l'heure, il nous a fait une performance à la Sakuraba, première ronde, rien n'allait, et pourtant, il nous a démontré au sol quand même, le dos au sol. Il a tenté une multitude de soumissions, mais vraiment de haut calibre. Et Stéphane Lavoie, c'est une ceinture mauve, à ma connaissance, une bonne ceinture mauve. Il est très fort au sol, très bon au sol. Mais Matteo a quand même tenté plusieurs tentatives de soumission, triangle, omoplata, clé de bras de multiples occasions. Ça passait pas parce que, je pense que Lavoie a un très bon niveau également au sol, mais aussi il était beaucoup plus fort physiquement. Il y avait une bonne différence de force et je pense même de poids probablement au jour du combat. Mais Matteo a essayé des clés de jambes également. Et finalement, il a réussi au deuxième round. Au moment où je me suis dit, après le premier, je me suis dit, Matteo a bien essayé au premier round. C'était bien charmant tout ça, mais il va falloir qu'il redescende à 135 livres. Parce qu'à 145, face à un gars comme Lavoie, ça passera jamais. Et je vois pas comment il peut gagner ce combat-là, parce que Lavoie, j'imagine, va garder le combat debout au deuxième. Et ça va être à sens unique, et ça va être un carnage, et ça va être une tempête. Parce qu'il m'a donné l'impression, Matteo, parce que je pense que c'était son... Tu me corrigeras, je fais erreur, mais lui, il avait même jamais fait de combat de MMA amateur. C'était donc...
Exactement, c'est ça. Il a commencé tout de suite. Son premier combat de MMA, c'était vraiment le ses débuts contre James Clark à TKO 42.
C'est de la folie, là. C'était donc son deuxième combat de MMA. Et debout, j'ai l'impression qu'il est plus dangereux pour lui-même que pour son adversaire. En tous les cas, ça va être un apprentissage au fil de ses combats. C'était difficile pour lui, mais il a quand même réussi, le petit vlimeux, à aller chercher la victoire. Chapeau, un beau moment, ça, dans la soirée.
Ben, il est dans la bonne équipe s'il veut apprendre à combattre debout avec Crew Jeff Harrison, puis Matt Arlo, là, de l'équipe de New Era Combat Sports à Ottawa. Alors, il est bien entouré pour faire son apprentissage en combat debout. Pour ce qui est du sol, je pense qu'il nous a prouvé qu'il n'y a rien à envier à personne. Puis si, après sa performance contre James Clark, en mars, on rêvait d'un affrontement contre Frédéric Dubras, qui lui aussi est vraiment une vedette montante chez les 135, qui s'en vient vraiment notre division fétiche, là. Je pense que le nombre de jeunes prospects qu'on a à 135, c'est assez incroyable. Si on rêvait à l'affrontement avec Dubras après 42, après 43 hier soir, je pense que c'est l'affrontement qui serait sur toutes les lèvres. Là. Ce serait vraiment une confrontation très intéressante entre deux spécialistes du sol. Ça serait vraiment intéressant à voir, je pense, pour tout le monde.
Moi, être dans l'équipe de Vogel, je dirais que t'es mieux d'attendre. parce que je pense que Frédéric est beaucoup trop complet pour lui. Mais quoi que je dis ça, mais Sakuraba à l'époque, les belles années du Pride, parce que moi, Sakuraba, ça a été mon combattant qui m'a fait découvrir ce sport-là. La raison pour laquelle je suis amoureux de ce sport-là, c'est entre autres Sakuraba. Et Sakuraba, il y avait bien du monde bien meilleur que lui dans plein de facettes du combat, mais il a réussi à aller chercher des victoires in extremis, ça convient l'occasion. Peut-être que ça va être ça, Mathéo, je ne sais trop, mais chose certaine, évidemment, c'était sa première et sa dernière aventure à 145 livres, d'après toi. C'était vraiment juste parce qu'il ça prenait un nouvel adversaire pour Stéphane Lavoie, 145?
Oui, ben c'est ça. Je pense qu'il nous le mentionnait aussi hier soir là, que lui avait l'intention de rester à 135. Mais cependant, il était habitué de dans les compétitions de jiu-jitsu d'aller en de faire l'absolute, là, comme on dit, mm-hmm. le weight. Puis il nous disait que bon, il avait déjà affronté des gens qui pesaient jusqu'à 300 livres, puis réussissait à se débrouiller quand même très bien. Fait que pour lui, prendre quelqu'un qui avait 10 à 15 livres de plus que lui, ça l'intimidait pas plus qu'il fallait. Puis, comme tu disais, avoir les talents techniques, c'est une chose. Le technique, ça s'apprend. Le mental, ça se développe, mais il faut que tu aies quand même quelque chose en dedans de toi là, ouais. qui t'amène vers ça. Puis la résilience qu'on a vue dans ce jeune athlète-là hier soir, qui s'est fait dominer au premier round, s'est fait couper... non, on parle pas d'un boxeur ou d'un kickboxer ou quelqu'un en boxe taille ici qui est habitué de, ouais. faire, de se faire couper l'arcade sourcilière.
C'était un bon point, c'était un bon point.
Puis il a passé à travers, puis encore là, je réécoutais le combat cet après-midi, puis tu le regardes dans tes deux rounds et demeure stoïque, demeure confiant, écoute Jeff Harrison qui lui dit quoi faire, quels ajustements apporter, puis il réussit à vraiment passer sa soumission au deuxième, c'est le plan. Puis l'emporter contre Lavoie, parce que tout comme toi, après le premier engagement, je dois t'avouer que je pensais que la soirée allait être longue pour Vogel, puis que ça sentait le TKO ou peut-être la soumission.
Hey, est-ce que tu viens de dire Vogel, toi?
Pardon? Ah, excuse-moi. Hey. Je m'invite à... Jeff me l'a dit cette semaine, c'est comme vocal en anglais, okay. mais c'est vocal. Fait que je m'habitue à le dire.
Parce que moi, là, tu sais que j'ai prononcé comme tu l'as prononcé hier. Là. J'ai tout changé mon minding.
Des fois, on dirait que dire un nom d'une langue à l'autre. Des fois,
non, je comprends.
Mais la vraie prononciation, c'est Matteo Vogel.
OK.
C'est la manière de le dire.
C'est bon. T'es le Pierrot des arts martiaux mix, là, Patrick. Maintenant, t'as une immense responsabilité.
Ouais. On va essayer de se limiter sur les noms polonais et autrichiens à l'avenir, qui représentent un défi.
Il y a Stéphane Lavoie. Bon, c'était son deuxième combat professionnel, une deuxième défaite, mais je pense qu'il a quand même démontré des belles choses. Et même si ça n'a pas nécessairement été très bien pour plusieurs combattants de la grande région de Québec hier, quoi que tous les gars du Nordic Fight Club et filles, là, dont Jade, ont gagné. Sinon, les autres, ça a été... pour l'ensemble, quand même un peu plus difficile. J'ai quand même bien aimé de ce que j'ai vu de Stéphane Lavoie. Je pense que la face qu'il avait devant lui, un exceptionnel au sol. Mais Stéphane Lavoie, c'est quelqu'un qu'on pourrait revoir probablement même le 21 septembre.
Ah, absolument. C'est le cas aussi pour les autres de Québec pour qui la soirée a peut-être pas eu le dénouement escompté. Il y avait beaucoup de jeunes talents. On parle des combattants qui arrivent de l'extérieur pour venir combattre ici. Puis l'avion ou le transport, puis t'es pas dans ta ville, t'es pas dans tes choses. Mais combattre localement aussi, surtout pour tes débuts professionnels, premier gala d'art martiaux mixte au Centre Vidéotron, on en a parlé souvent, là, tout le média, la médiatisation de l'événement qui a été absolument incroyable. Puis ça amène son lot de pression aussi, la gestion de la vente de billets, faire tout ça. C'est quand même une pression qui est bien différente de combattre des amateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes de la région de Québec qui ont appris beaucoup sur eux-mêmes dans les dernières semaines, puis qui vont juste revenir plus fort. Puis à moins que Stéphane ait eu des discussions auxquelles dont il m'a pas informé, il y a personne qui a perdu hier soir. Qui est venu nous voir après pour nous dire « Bon, je l'ai essayé, je l'ai fait une fois, c'est terminé. »
Non, et moi, j'avais une crainte parce que plusieurs des combattants de la région de Québec, je les ai déjà vus. Il y a même certains avec qui j'ai déjà même roulé. Joué Patry, notamment, qui, pour lui, il est tellement bon. Ça, c'est un excellent grappleur. Mais j'avais des inquiétudes pour plusieurs d'entre eux parce que beaucoup d'entre eux font beaucoup de jiu-jitsu brésilien, beaucoup en gi, aussi en no-gi, mais c'est sans dire que c'est des puristes jiu-jitsu, ils se concentrent beaucoup sur cette partie de cette game-là et c'est très important, mais le MMA, c'est vraiment quelque chose de différent. Alors, j'avais quand même quelques doutes, quelques craintes, et finalement, il n'y a pas personne qui a eu l'air fou, il n'y a pas personne qui s'est mis en position fétale après 30 secondes en attendant qu'on vienne le sortir de la cage. Il n'y a personne qui a mal paru. Je pense qu'on a vu quand même qu'il y en a qui, comme tu l'as bien expliqué, qui en ont appris sur eux-mêmes, qui vont apporter des corrections probablement à leur camp d'entraînement, à leur manière de s'entraîner pour le MMA. C'est les 5 minutes. C'est un monde différent, le MMA et le MMA professionnel. Mais je pense que tous les athlètes, même ceux qui ont perdu, moi, en tout cas, j'ai envie d'y revoir probablement même au Centre Vidéotron le 21 septembre prochain. Les billets sont déjà en vente. C'est fou, ça va vite.
Oui, oui. Tu parles de billets en vente. C'était un item sur lequel on avait insisté avec le Centre Vidéotron qui a encore une fois été très collaboratif. C'était important pour nous de mettre les billets en vente pendant l'événement. Puis, je sais qu'à un certain point hier, on n'avait pas dépassé, on était très près d'avoir déjà vendu une centaine de billets pour l'événement du 21 septembre. Puis, on s'entend, il y a quand même 4 mois et demi, presque 5 ouais. mois. Avec aucun combat d'annoncé, je pense que ça démontre à quel point j'ose espérer que les gens ont aimé leur soirée. Pour nous en tant qu'organisation, c'était vraiment un grand succès. J'espère que c'est hier, je pense que c'était l'étape 1 d'une belle complicité avec les amateurs de la ville de Québec, puis les gens du Centre Vidéotron. Alors, on a déjà bien hâte de revenir en septembre.
On n'aura pas le temps de parler de tous les autres combats, mais il y a Olivier Nadeau et Maxime Soucy qui, en tout cas, moi, j'ai bien, bien apprécié le spectacle. Je sais pas pourquoi, mais ils avaient vraiment pas l'air à s'apprécier, les deux, à la pesée lors du combat. Mais Olivier est arrivé là, une tempête. Toi, évidemment, je me suis dit, après une ou deux minutes, jamais qu'il va être capable de soutenir ce rythme-là. Et c'est ce qui est un peu arrivé. Il était de plus en plus lent. Dans ses coups, dans ses frappes, dans ses techniques. Il y avait de plus en plus d'espace pour Maxime Soucy de mieux s'exprimer. Finalement, Maxime est allé chercher la victoire. Mais quel combat qu'ils nous ont offert, Olivier Nadeau et Maxime Soucy.
Oui, puis je pense Olivier a quand même touché Maxime à quelques reprises pendant le court laps de temps qu'ils se sont affrontés. Comme tu disais, c'est un combat qui s'est déroulé à un rythme infernal. Il y avait de l'animosité à la pesée. Quand Olivier a fait son entrée dans la cage en faisant ses tours de réchauffement, s'est retrouvé nez à nez avec Maxime, puis je pense qu'il aurait débuté le combat de immédiatement si ça avait été possible. Olivier a une grande confiance en lui, et quand même une saine confiance. Je pense pas qu'il est nécessairement surconfiant. Mais lui aussi, je pense il a appris beaucoup dans l'affrontement avec Matarlo. Il avait mis beaucoup d'efforts dans ce camp d'entraînement-là pour Maxime. Puis je pense que c'était pour les deux, je pense que c'était un bon match-up. C'était deux styles qui faisaient bien la paire. Mm-hmm. Puis ça nous a donné, comme tu disais, un combat qui a été très excitant, même s'il a duré seulement quelques minutes. Mais je pense que Olivier, un peu comme les autres, là, maintenant peut retourner à la planche à dessin puis dire bon, ok, quels ajustements qu'on apporte. Parce que je pense qu'Olivier est définitivement fait pour les sports de combat, là, quand même.
Parce qu'au début de coup, là, ben, en fait, même dans l'ensemble, là, je pense qu'Olivier, en 3 minutes et quelques secondes, a dû lancer deux fois plus de coups que Peter Pettis. Là. Et tu sais, Olivier n'a pas beaucoup d'expérience en arts martiaux mixtes. C'est un athlète, il a fait de la gymnastique et il continue, il donne des cours de gymnastique, il a joué au football, c'est un athlète, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en termes d'arts martiaux mixtes, il n'a pas beaucoup d'expérience, il ne s'est pas beaucoup entraîné depuis plusieurs années. Et moi, vraiment, je pense que ce gars-là, faut voir dans les prochaines années ce que ça va donner. Parce que c'est ce qu'il me disait lorsqu'on l'a rencontré ici, il y a peut-être quelques semaines. C'est lorsqu'il était à Saint-Jean-sur-Richelieu, sans rien enlever à son équipe, il s'entraînait, mais c'était, je dirais, assez sporadique. Là, c'était, et là, depuis qu'il est à Québec, il s'entraîne au Nordic Fight Club, le Tristan Québec. Et là, son niveau d'entraînement a considéré... Je pense que c'est... je veux pas comparer le niveau de qualité d'entraînement, mais en tous les cas, c'est vraiment différent. Là, l'entraînement qu'il a ici, il s'entraîne beaucoup plus, je pense également. Et dans le cas de Maxime Soucy, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il fait des arts martiaux. Il a fait du karaté Kyokushinkai depuis longtemps. Au niveau technique d'arts martiaux, de sport de combat, Maxime a beaucoup plus d'expérience. Olivier, beaucoup moins. Mais moi, je pense qu'Olivier a un gros, gros potentiel dans les prochaines... qu'on va voir se développer au cours des prochaines années. J'espère qu'il ne va pas se décourager après deux défaites.
Oui, c'est des ajustements apportés dans son cas, comme tu disais. Je pense que c'est peu importe le type d'entraînement ou l'équipe, les gens vraiment qui t'entraînent, l'important, c'est de trouver où est-ce que tu es à l'aise, je pense. C'est comme un fit dans n'importe quelle équipe, que ce soit dans un environnement de travail ou dans une équipe sportive. Faut trouver où est-ce qu'on est à l'aise. Puis je pense qu'il est à l'aise dans l'équipe où il est bien entouré. Alors, ça va, c'est juste une évolution. Puis du côté de Maxime, comme tu disais, oui, il a quand même beaucoup d'expérience chez les amateurs. C'est quelqu'un que j'avais découvert chez les amateurs également, là, que j'ai vu à multiples reprises. Elle a affronté des bons combattants chez les amateurs aussi. Alors, elle avait peut-être un peu plus d'expérience sur la gestion de soi, si on veut, à ce niveau-là. Les deux faisaient leur première coupe de poids à 135 livres. Ça s'est bien passé pour les deux. Fait que je pense en effet que les deux ont un bel avenir dans ce sport-là. Puis les deux, comme on disait tantôt, compétitionnent à 135 livres, une division qui est riche en jeunes talents chez nous. Alors, c'est pas les adversaires qui manquent, alors je suis sûr qu'on va les voir.
Et maintenant, pour conclure, Patrick, la question, la grande question, c'est à quel endroit sur la planète c'est le plus agréable de faire ton travail? Est-ce que depuis hier, c'est le centre Vidéotron?
Ça va être dur à battre. Franchement, il y a peu d'endroits, en fait, il n'y a pas d'endroit où je peux me souvenir d'avoir monté dans la cage 10 minutes, 15 minutes après que les portes ouvrent. Je ne sais pas combien de temps ça a pris hier soir. Corrige-moi si je me trompe, mais moi, si j'avais estimé, j'aurais dit qu'il y avait au moins 1000 personnes dans les estrades quand le premier combat de la soirée a commencé.
Il y avait du monde. Et ce qui est, je trouve, superbe, c'est qu'on est capable de retrouver l'intimité incroyable de la TAU, mais avec évidemment un potentiel d'accueil qui est beaucoup plus grand. C'est pour ça, pour moi, je dis, c'est maintenant, il n'y a pas meilleur endroit là au monde.
Ah oui, quand Jade a fait son entrée pour débuter la carte principale, c'était le bruit était assez incroyable. Quand Marc-André est monté dans la cage en finale, c'était vraiment spécial au point où, en toute franchise, j'entendais à peine, sinon pas du tout, mon réalisateur. Et la seule raison que je savais qu'il fallait que je commence l'introduction, c'est parce que j'entendais que John Ramdeen puis Robin Black sur la trame anglophone du broadcast avaient arrêté de parler. Alors, tu vois, OK, c'est beau. Si eux ont arrêté de parler, ils parlent. C'est comme ça qu'on y a été. C'était vraiment une belle ambiance. Je pense que on sentait la tension dans la foule pendant la finale, qu'on savait qu'à tout moment, l'un ou l'autre des combattants pouvait l'emporter. Mais Marc-André a vraiment montré des prouesses vraiment incroyables dans ce combat-là. Je pense qu'il est, comme on dit tantôt, il mérite tout ce qui lui revient. C'est un jeune homme qui a vraiment fait les efforts à l'entraînement, fait tout ce qu'il faut pour avoir du succès dans ce sport-là. Puis il mérite les récompenses qu'il reçoit. Là. Mais oui, le centre Vidéotron, c'était absolument électrique. Puis j'ai déjà bien hâte au 21 septembre pour y retourner.
Ah, j'ai pas aussi de te laisser l'opportunité de parler de Sébastien Ruiz, parce que moi, la seule chose dont j'ai envie de faire maintenant, c'est de faire du porte-à-porte à travers tout le Québec pour leur parler, propager la bonne nouvelle et leur parler de Sébastien Ruiz. Connaissez-vous Sébastien Ruiz? Il faut le faire découvrir à tout le monde. Et comment t'as vécu ce jeune phénomène-là hier?
tu sais, c'était drôle, hein? Je veux dire, quand on est passé de Nate Maniff, qui était 9-0, Luis Rafael Laurentino, qui était 32-1. Puis, je pense, on en a parlé, toi et moi, cette semaine, à la conférence de presse, à une couple d'autres événements où est-ce qu'on s'est croisés. Si, dans les deux dernières semaines, entre Stéphane et moi, on n'avait pas parlé à tous les 135 livres, au moins en Amérique du Nord puis en Europe, qui avaient des fiches, évidemment, qui étaient dignes d'un affrontement contre Jesse Arnett, on a parlé à la grande majorité. Puis bon, finalement... je pense que c'était samedi dernier, Stéphane m'appelle, puis il me dit, bon, ben, j'ai trouvé Sébastien Ruiz, un gars du Pérou qui habite maintenant au New Jersey, qui est 3-0 avec 3 KO, puis son pedigree de boxe-taille, puis toute l'affaire. Bon, OK. Puis honnêtement, j'ignorais qu'il avait 19 ans, chaque temps que je le vois. Puis là, quand je l'ai vu, je dis, bon, OK, puis je connais... On connaît bien Jesse Arnett, puis on a vu Jesse Arnett travailler comment il avait fait ça avec Dimitri quand il a remporté le championnat. Puis en toute franchise, en dedans de moi, je me suis dit, bon, connaissant Arnett, il va vouloir rester debout avec pendant une minute ou deux pour voir quel genre qu'est-ce qu'il donne en boxe-taille. Puis ensuite, il va l'amener au sol, puis il va tout faire pour le soumissionner. Puis Ruiz va probablement avoir de la misère à s'en sortir. Et là, puis à la pesée, Ruiz s'est tenu droit devant Arnett, mais vraiment droit. Jamais flanché, il était très confiant. Ah, OK, le jeune a confiance en ses moyens, tant mieux pour lui. Et là, le combat commence. Et tout a changé. Puis en dedans de quelques minutes,
oui.
Ruiz, confiant, ses coups étaient, pardonnez l'anglicisme, ses coups étaient crisp. Tu voyais vraiment que... Encore là, a jamais reculé. Puis la première fois qu'Arnett est allé au tapis, je dis bon, OK. Là, puis Jesse s'est levé quand même rapidement. Je dis bon, OK, Jesse vient de comprendre que tu restes pas debout avec ce gars-là. Puis continue à rester debout. Finalement, réussi à l'amener au sol. Et quand il a réussi l'étranglement, je dis bon, OK, c'est fini. C'est beau. C'est belle opposition. Merci beaucoup, jeune homme, de t'être déplacé. T'as vraiment bien fait. Puis on va se revoir. Puis non, il s'en sort. Puis Jesse reste debout avec au début du deuxième, puis Ruiz le fait tomber deux fois. Puis il y a un de nos collègues dans l'organisation qui était dans le vestiaire. Il disait que dans le vestiaire des combattants, tout le monde avait les yeux rivés sur la télé et en revenait pas. Tout le monde disait, est-ce que ce jeune-là va causer la plus grande surprise de l'histoire du sport depuis Weidman contre Silva? C'était vraiment, ça en était à ce point-là de, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Puis, chapeau à ce jeune homme-là qui a vraiment livré une performance exceptionnelle. Quand on a quitté la conférence de presse hier, je sais que je t'ai parlé à toi, j'ai parlé à plusieurs gens et des médias aussi. Les deux choses dont on parlait, c'était marquant le duo Barrio-Masson-Wang, si on veut, et tous les événements qui les entouraient, et de Sébastien Ruiz, puis quand est-ce qu'on va le revoir, puis est-ce qu'il va être à Québec le 21 septembre, parce que je pense que les gens ont vraiment découvert ce jeune homme-là, et nous aussi, puis c'est quelqu'un, puis encore là, dans notre riche division des 135, va être une force de laquelle il va falloir se méfier. Son entraîneur nous disait déjà hier soir, c'est un événement la semaine prochaine, on est déjà prêts.
Nous, on est preneur à tous les événements. Quoi qu'il est encore jeune, je pense qu'il faut quand même y aller prudemment. Moi, j'aimerais le voir face à quelqu'un plus près de son âge dans son prochain défi. De toutes les façons, on va le revoir. Et comme j'ai dit à Stéphane, faut pas le laisser partir, lui, avant de l'avoir attaché pour 10 combats. Je pense qu'il est pas encore sorti du pays, il est pas trop tard. Il faut... c'était exceptionnel.
Non, par une drôle de coïncidence, son avion a été appuyé ce matin. Quelle drôle de coïncidence!
un énorme merci, Patrick. Je sais que ça a été une semaine mouvementée, même deux semaines pour toi et Stéphane, de fou avec les changements et tout ça. Très éprouvant. Et je te laisse te reposer, puis on se reparle dans les prochaines semaines. Un grand, grand merci à toi.
Merci bien à toi aussi. Ça me fait toujours plaisir, puis à bientôt.
Bye. Hey, c'est tout pour nous. On se reparle samedi prochain de 18 à 20 heures. C'est La Voix des guerriers. C'est comme ça, tous les samedis. Au revoir.
96.9. Bienvenue dans mon mode de vie. On perd la tête, frère, yeah. Même dans le mal, toujours on espère. Ouais, frérot, vérifie. Toujours on reste fier, yeah. Ouais, t'as le calibre, mais t'as pas le respect.
The Alternative Radio Station 96.9.
Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984
4-36-80. La niche à Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens et chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis Coupe Gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
La Niche Aluna.
88-700-0600. Pour plus d'informations,
www.lanichealuna.com.
C'est Henri de Lévis pour tous vos chiens chats.
T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film?
Avec tout ce qui vient avec?
Eh bien, le cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable, pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace.
Everybody get up, it's time to slam now.
Le cinéma Lido, la place pour voir un film, 44 du président Kennedy au Promenade Lévis, ou visiter le site internet www.ciné-détente.ca.
Qu'est-ce qu'on fait pour que notre entreprise se démarque maintenant?
Il nous faut de la nouveauté. Logo, PE, visibilité, promo.
Ça prend du grand format pour ça.
Ça nous prendrait quelqu'un qui rallie tout au même endroit.
Attends, écoute.
Eh oui, Image Express depuis plus de 15 ans. C'est le spécialiste de l'impression grand format. Lettrage, wrapping, affichage, autocollant, cartes, enseignes et vitrines. En plus de leurs nouveaux événementiels, kiosques, vêtements et plus encore. Expert dans la création et le développement de vos petits et grands projets publicitaires. 418-835-1789. Suivez-les sur Facebook, imageexpress.ca. 418-835-1789. Faites comme nous et impressionnez en grand.
Pourquoi acheter un véhicule neuf? Pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout.
88-406-34-34.
En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG.
Maintenant, une toute nouvelle adresse. 6006 Boulevard Sainte-Anne.
Allons-y.